Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'ai peur que ce soit mauvais aujourd'hui, non?
Bienvenue dans un épisode nul de Laisse-moi kiffer.
Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer,
Épisode 37 déjà. Et oui,
Épisode 21. Voilà, j'ai envie de vous dire bienvenue. Bienvenue Cédric, bienvenue Kalindi, bienvenue Mimi.
Bienvenue Louise.
Oui. Bienvenue Louise.
Bienvenue Lou.
Nous sommes dans ton propre podcast.
Oui, dans notre podcast à nous, quelque part, en même temps.
C'est vrai.
Je vous dis bienvenue pour un podcast dans lequel vous êtes déjà bien habitués.
Bienvenue à nous toutes et tous dans ce podcast.
C'est bien le podcast du kiff et de la digression. De la digression.
De la digression. De la t-shirt à broder.
Oui, exactement.
Bah, ça leur fait du taf au bout d'un moment. Oh putain, ils ont encore dit n'importe quoi, je vais devoir broder 15 t-shirts.
Eh merde. La pistache des podcasts est de retour avec la brigade du kiff. Et même si Cédric est pas d'accord, je l'appelle quand même la brigade du kiff. On est la brigade du kiff, je veux dire, bon voilà, c'est comme ça.
T'as dit que t'es pas d'accord toi ?
J'étais pas d'accord moi.
J'aime bien.
Non, mais c'était pas les power kiffers.
Non,
non,
on
vraiment.
A dit non à ça car on n'est pas nés dans les années 80, putain.
Bof.
Bah, c'est votre faute. Les coupes de cheveux des gens, c'était les meilleures dans les années 80.
T'as jamais rêvé d'avoir un mulet ?
Je pouvais sortir
mais
n'importe
si,
comment.
Je ne parle
dans
pas
la
de
rue,
mes rêves
génial.
Intimes dans Laisse-moi kiffer.
Ok, okay la meuf.
Ah, Mimi et dressait le bas tous les deux avec des mulets. C'est battant dans la montagne. Est-ce que t'as vu la figurine moche d'Idriss Elba?
Non.
Ils ont essayé de faire une figurine à l'image d'Idriss Elba parce qu'il a été nommé Sexiest Man of the Year. Ouais. Et la figurine est dégueulasse, on dirait pas du tout lui, elle est trop moche. Et elle coûte 900 dollars. Je vous mettrai un lien dans la description. Et en fait, la figurine, elle ressemble trop à un autre acteur qui est pas lui, et qui est pas du tout joli. Et du coup, il a juste tweeté une photo où c'est la tête de l'autre acteur et il a rien dit de plus. J'ai tellement envie.
Génial, mais c'était qui l'autre acteur? Benedict Cumberbatch. Aucun rapport, bro. C'est
j'ai oublié son nom, mais vous aurez tout dans la description. Voilà, si vous voulez voir la pire figurine d'Idriss Elba.
Et l'acheter.
Pour la modique somme de 970 dollars, je crois.
Mais d'ailleurs, sur la couverture, il portait un très beau gilet qui, moi, m'a beaucoup affolé.
Moi aussi, un cardigan là en laine et tout.
Son petit chandail, là.
Oh, le sens du détail, c'est vrai que c'était un cardigan et non un gilet.
Pardon. Je le sais, car mon mec en porte tout le temps, car il a 60 ans.
Excusez-moi, c'est quoi la différence? Le gilet a des boutons, le cardigan n'en possède aucun. Ok. Commençons donc avec les commentaires de nos auditrices et auditeurs. On va commencer avec Insta Monka qui nous a envoyé un message sur Instagram en disant « Je vous écoute en ce moment au taf, je suis modèle vivant, soit payé pour être immobile et écoutez Laisse-moi kiffer 6 heures par jour. Meilleur boulot. »
Meilleur job. Mais comment faire pour ne pas rire?
Eh ben, elle dit
sans
justement.
Sans vouloir nous jeter des fleurs, on est hilarant.
Elle dit justement,
elle
en plus, les élèves me matent, tous me marrer solo, variante du métro, car je pense qu'elle elle doit avoir des écouteurs et rire seule. Alors que les.
Je pense
elle
que c'est la pistache des petits boulots.
Mais attends, modèle vivant, c'est genre les statues là?
Les statues.
Les gens statues.
Non, c'est les gens qui sont dessinés par les étudiants.
Ah non, ok,
en
je vois ce qu'elle veut dire.
Oui, genre non, c'est pas les gens qui sont déguisés genre en argent dans la rue et ils font Zarma, genre je suis la statue de la liberté. Non, c'est je pense c'est pas mais ça se trouve.
Non, tu sais, c'est quand t'es étudiant en dessin, il y a des cours de modèle vivant où du coup, c'est des gens qui prennent des poses et puis tu dois faire des croquis
pour
apprécier un peu les proportions
corps
du corps.
Ouais,
et
comme
tout.
Au Beaux-Arts, mais genre je suis là, du coup, meuf, c'est cool, t'as le droit d'écouter des trucs pendant que tu fais ça, c'est stylé.
Bah,
j'avais
j'imagine.
Pas. Je croyais que c'était.
J'imagine que ça doit être chiant comme taf, parce que tu dois être immobile, donc du coup, t'as peut-être le droit de faire des trucs de type écouter un podcast, ça va, c'est pas le pire truc.
C'est stylé, en fait, ton métier, c'est Rose dans Titanic.
Ouais, mais genre dans les 5 secondes de la scène où elle pose.
Je pense que
super, je suis Cédric, je suis là pour casser
les yeux. Rose, elle a plus les yeux de la teub que la plupart des modèles vivants, parce que Rose, elle a vraiment le regard chaud.
C'est vrai, elle a les yeux de la teub. Elle a les yeux qui crient braguette.
J'adore cette expression.
C'est qu'un jour, j'étais au printemps et il y a un mec qui passe, il me fait « Vous avez vraiment les yeux qui crient braguette ?» Et j'étais là « Je ne vous ai rien demandé !»
Là, 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 là.
Oui, oui, bon.
Il s'est fait sortir par la sécurité, j'imagine.
Non, j'étais tétanisée, je savais pas quoi faire. J'étais, voilà, je n'ai rien dit.
Voilà, une belle anecdote.
Donc, allez-vous plaindre si ça vous arrive.
Non, non, ne faites pas ça. Et oui, allez-vous plaindre. J'ai deux vides bolos pour vous, pour commencer cet épisode. D'abord, celle de Laura, qui nous a écrit « Quand tu marches dans Lyon et qu'une femme t'apprend que ta robe est relevée et que tu viens donc de traverser l'entièreté de la ville, le cul à l'air, tu sais que ça va être une bonne journée. »
Une bonne journée.
En même temps, à qui c'est pas arrivé
Moi, ça m'est rarement arrivé d'avoir la robe coincée dans la culotte.
Ouais, j'entends ton argument.
Ça fait une voix.
À mon avis, Louise, ça lui est peu arrivé également, étant donné le peu de robes que tu portes.
Alors, plus jeune, je portais plus de robes, et ça m'arrivait pas d'avoir la culotte coincée, mais c'est ton sac qui relève ta jupe tout au long dès que tu marches. Et donc, probablement, j'ai eu le cul à l'air plusieurs fois, ouais.
Toi, Mimi, le cul à l'air parfois ?
Oui, très régulièrement. D'où l'intérêt des robes et des jupes avec des poches, qui n'est pas seulement esthético-pratique, mais qui empêche d'avoir un sac qui remonte ta jupe tous les putains de pas. Car vraiment, dès que j'ai un sac et une jupe, je tiens ma jupe quand je marche, c'est peu élégant et peu pratique.
Et donc, Kalindi, une anecdote
Non, ça
au Brésil,
m'est arrivé.
Voilà,
non, non, tout ça m'est arrivé plusieurs fois, mais pas d'anecdote particulière. Ah, une fois, cependant, une anecdote sur la nudité. j'étais en train d'espionner un gars à Bercy.
N'hésitez pas à envoyer un mail à stalker@mademoiselle.com.
Mais c'était pas pour moi, c'était pour une copine.
Ah oui, bien sûr.
Non, ça va alors.
La vérité.
Stalker généreuse @mademoiselle.com.
La vérité, c'est ma copine, on va l'appeler Alexia.
Le stalker.
Et genre, j'étais avec Alexia et elle kiffait un gars et en fait, il faisait du foot ou du basket ou je sais plus quel sport. Et en fait, il y avait des chiottes, tu sais, en rond là, de Paris. Qui s'ouvre en glissant comme ça en rondin. Et
si
on avait...
vous ne voyez pas, vous tapez toilette publique Paris. Vous
en rondin.
Je suis pareil, dégueulasse en rondin.
N'importe quoi. Oui, d'accord. En rondin.
Toilette en rondin. @mademoiselle.
Elle a levé les yeux au ciel.
Envoyez vos meilleures photos.
Attends, on lance un concours Instagram des meilleures toilettes en rondin.
Imagine, mais je suis sûre que ça existe vraiment, les toilettes en rondin.
De ouf.
Ça n'existe pas du tout. Et donc j'étais avec Alexia.
Mais si, genre en Islande.
Non, c'est des saunas, faut pas pisser dedans.
Surtout que. Bon, excusez-moi.
Ouais. Ça va être trop long. Kalindi, elle va partir dans les détails architecturaux en mode, mais non, ça n'a aucun sens. Regardez, ça fait ci et ça, bon.
Mais donc, avec ma copine Alexia, on s'était cachés dans les toilettes pour discuter de putain, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre plan d'attaque.
Mais c'est le pire endroit où se trouver, putain.
On sait quoi, pour discuter, parce qu'en fait, on avait peur qu'il nous ait cramé. Donc, bref, on est rentrés dans les toilettes, on était là, putain, imagine.
C'est vrai que c'est pas du tout cramé s'il se dit, c'est qui ces deux meufs chelous, et vous rentrez à deux dans les toilettes en faisant, attends, vas-y, on se cache. Très discret.
Et là, je dis, bon, bah quand même, vas-y, je vais faire pipi puisqu'on est là, et j'ai baissé. Et tu sais, les toilettes en rondin, parfois, ça souffle. C'est pas pourquoi, parce que peut-être y a un connard dehors qui a appuyé pour que ça s'ouvre et toi t'avais pas, bon, comme une connasse, appuyé sur le bouton fermé quoi.
Fermé. Ce qui est le problème globalement des toilettes. C'est vraiment, si
même
tu les fermes pas, les gens peuvent rentrer.
Ça me rappelle une anecdote d'Anouk Perry qui fait d'excellents podcasts, et n'hésitez pas à aller les écouter, qui me semble changer sa cup en festival et elle avait pas fermé la porte et quelqu'un ouvre et fait hey, c'est Anouk de Mademoiselle et referme. Elle était très à l'aise.
Oui.
Ne faites et pas donc, ça du coup, cette porte s'est rouverte.
Bah voilà, bah j'étais en train de faire pipi. On a vu.
Il n'y avait pas le mec en question qui était devant.
Okay. D'où la nudité.
Oui
c'est tout. Rappelé le contexte.
Ah, oui, c'était loin dans thème de. Oui, voilà.
Mais très bonne anecdote.
Merci.
Belle anecdote.
Alors, et l'autre vide bolos, c'est Célie qui nous la raconte et qui nous dit « Je suis de retour pour raconter une vide bolos dont j'ai été victime durant ces vacances. C'est l'histoire de comment j'ai fini boub à l'air sur la place centrale d'une ville espagnole. Je mangeais tranquillement une part de pizza accompagnée de ma famille sur la dite place quand ma sœur m'annonce avec désinvolte. »
Sure.
Non, juste avec désinvolte, c'est écrit désinvolte.
Écoute, on peut lui corriger des fautes de frappe,
ça
voilà, on est sympa.
M'annonce avec désinvolture que j'ai une... très bien. Que j'ai une araignée sur l'épaule.
Résultat,
je panique et essaye désespérément de la faire tomber. Puis, tout part en steak. Elle rajoute qu'elle a vu la bête poilue rentrer dans le col de mon pull. Là, je panique fois 10 000. Et, dans un moment de folie, j'essaye d'arracher mon pull qui entraîne malheureusement avec lui mon t-shirt. Et vu que, #FreeTheNipple, donc elle ne porte pas de soutien-gorge, il n'y a rien d'autre en dessous pour cacher ma poitrine. Je me retrouve donc coincée à essayer de cacher mes boobs d'une main en remettant mon pull avec l'autre, tâche complexe que j'ai effectuée seule, car ma sœur a préféré se foutre de ma gueule plutôt que de m'aider. Je suis donc restée torse nu environ 30 secondes dans la plus grande des détresses. Voilà.
Putain, c'est très chaud. Bravo à toi qui as su affronter cette épreuve.
Oui. Mais j'imagine vraiment là, essayer de rattraper ton boob d'une main et de l'autre, être en train d'essayer de trouver où est l'araignée poilue dans ton pull.
Mais surtout, quel courage d'avoir remis son pull sans avoir vraiment pris le temps de vérifier. Parce que moi, non seulement j'aurais fait pareil, mais en plus, je remets pas le pull si je suis pas sûre qu'il y a pas une putain d'araignée loin. Enfin, si y a le moindre risque qu'elle soit encore dedans, le pull doit brûler. C'est la règle.
Ah
ok, d'accord.
Très bien. Peut-être que je suis un peu arachnophobe. Peut-être.
T'étais comment niveau Harry Potter 2 quand il y a Aragog?
Ça va, je pense qu'à une certaine taille, tu vois, ça, je suis là en mode ah oui, ça n'existe pas, donc ça va. Mais par contre, j'ai été au studio Harry Potter et il y a la forêt interdite et il y a Aragog, donc le modèle qu'ils ont utilisé dans le film, qui donc t'as tout un petit truc où quand t'arrives devant sa tanière, elle est au fond et genre il y a des éclairs et du tonnerre et là elle sort en s'approchant et t'as plein de petites Aragog, donc d'araignées de la taille environ d'un énorme chien, qui tombent des arbres et qui se suspendent et qui font des grandes ombres sur le mur. Donc là, j'étais un peu en mode ok, peu bien.
Je
voilà.
vais me barrer.
Mais ça allait. Et en plus, le meilleur truc, c'est qu'à côté, il y avait un panneau avec des boutons où tu pouvais faire le vent, le tonnerre et la foudre en appuyant sur les boutons. Et c'était tout ce dont j'avais toujours rêvé. Donc j'étais vraiment comme une idiote en train de faire oui, les boutons pour faire le tonnerre, car j'adore l'orage. Moins les araignées, du coup.
Oui, les boutons!
Oui, les boutons du tonnerre! J'adore le tonnerre.
Elle est si contente!
Est-ce que quand t'écris des articles, t'écoutes le bruit du tonnerre?
Oui, ah ben oui, en plus, c'est vrai. Car quand j'écris des articles, je me mets dans les oreilles un petit site qui s'appelle Rainy Mood, qui fait le bruit de la pluie. Et donc, il y a un orage lointain dans le son. Donc, en fait, ça fait le bruit d'une bonne grosse pluie qui tombe avec des coups de tonnerre. Des fois, t'as un vague bruit de voiture ou d'ambulance qui passe et tout. Ça m'isole, ça me détend, ça te revient.
Les ambulances, j'adore ça!
Plutôt les ambulances très loin quand il pleut très fort, j'aime bien. Et tu peux choisir, tu peux mettre ton niveau d'orage et tout. Enfin, c'est très bien fait.
Tu fais extrêmement bien l'ambulance, Cédric, bravo.
Est-ce qu'on a le temps pour que je vous raconte? Ça me fait penser cette histoire de j'enlève des vêtements à ma plus grosse vie de bolos.
Attends, si tu commences comme ça, tu penses vraiment qu'on va te dire non, quelle
est-ce? En vrai, on est déjà en retard, je vous la raconte la prochaine fois. Juste rappelez-moi de vous raconter cette vie de bolos.
Non, mais tu peux pas te teaser comme ça, tu es obligé de raconter maintenant.
Alors, je la fais, mais j'essaie de la faire courte. Toi, tu la connais.
Ok.
Je pointais Louise du doigt. Un jour, j'espère que j'ai jamais raconté dans l'espoir qu'il fait. Un jour, j'étais tranquillement en train de regarder ma télévision dans ma chambre à coucher qui était à l'époque chez ma mère. Donc je regarde une merde, j'étais en legging et en pull, bref. Et là j'entends
Attends, j'aime quand tu dis je vais faire vite et qu'elle détaille comment elle est habillée.
Non mais ça
l'intérêt. Comme c'est une histoire de nudité, peut-être, c'est pertinent. Et t'es pas déjà à poil.
C'est ça.
Mais attendez, quoi, il y a une histoire de nudité là?
Oui, je rebondissais sur l'histoire du pull enlevé, tout ça.
Ah oui, pardon, ok.
Et non sur l'histoire du tonnerre.
Ouais, j'étais là-dessus.
Mais bon, on n'est pas loin de cumuler plusieurs choses.
Oh là là.
Et là, j'entends « Kalindi, Kalindi !» Donc c'était les voix de ma mère. Donc
on l'a reconnu.
Oh là là.
Et là, je cours, je fais « Putain, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je vois ma mère dans la cuisine avec une casserole de laquelle sort des flammes. Flamme qui était en train d'arriver sur le rideau. Et je fais à ma mère, putain, mais sors de cette cuisine! Mais sors de cette cuisine! Bref.
Putain, on est dans une famille pas du tout drama déjà.
Alors, tu as quel âge dans ce scénario?
C'était il y a 4 ans, non? Ok. Je lui dis, sors de cette cuisine, sors! Mais c'était impressionnant parce qu'en fait, la casserole était très grosse et que les flammes sortaient beaucoup, tu vois, parce que cette conne, elle avait fait cramer les frites. Enfin, bon, bref, et puis il y avait putain, le torchon
plus,
à côté, enfin, c'était n'importe
plus
quoi.
Il y a rien à manger à la fin, quoi.
De ouf. Et là, elle me dit, va chercher une serviette, va chercher une serviette! Et là, je lui dis, ok! Et donc là, je veux courir dans le couloir, sauf qu'en fait, j'ai mal négocié l'angle du couloir, donc j'ai couru dans le mur, je suis tombée.
T'as fait ce qu'on appelle une Fabrice Florent, donc.
Exactement. Je suis tombée, je me suis rattrapée, parce que je suis, en fait, il y a un couloir, et donc il y a la penderie derrière, je me suis rattrapée, j'essayais de me rattraper avec les vêtements, mais je n'arrivais pas à me relever, parce que les vêtements tombaient sur moi.
On dirait un cauchemar.
Oui. Je rentre dans ma chambre, j'ai pas compris serviette, donc j'ai pris la couette. Je arrive avec la couette dans la cuisine, et ma mère me dit, mais t'es conne, putain, j'ai demandé une serviette! Et là, donc en fait, l'alarme s'est déclenchée. Les voisins ont commencé à. Enfin, ma mère appelle les pompiers. Moi, je courais dans tous les sens. J'étais inutile. Mais
ah la vache. Tournant rond comme un Bugs Bunny, quoi.
Et là, les flammes se faisaient plus grandes. J'ai enlevé mon caleçon, mon legging. J'ai enlevé mon legging. Et j'étais là, je l'enlevais. Et puis après, j'ai recommencé à courir partout. Et après, les pompiers.
Attends, dans la panique, t'as enlevé ton legging.
Dans la panique, j'ai
sans
enlevé.
Aucune autre raison.
Sans aucune raison.
Pas pour étouffer les flammes, pas pour rien.
Ah non, il y en avait aucune. Mais je te jure. Mais en fait, parce que... Bon, après, j'ai réfléchi. Mais donc, Là, les pompiers arrivent, machin, parce que les voisins ont appelé les pompiers, parce qu'on hurlait, il y avait l'alarme qui était déclenchée. Et puis moi, l'alarme, ça m'a fait paniquer, donc j'étais là. Mais comme un animal, tu vois.
Littéralement, un petit mammifère qui comprend.
Laisse-moi sortir,
je vais enlever mon pantalon.
Putain, mais quel beau tableau ils ont vu, les pompiers, en ouvrant la porte.
Ah ben, exactement. Et là, mon beau-père est arrivé, il m'a poussé, il m'a dit « barre-toi ». Et il a pris les choses en main, voilà, le patriarcat a géré cette affaire, puisque ma mère était comme ça et moi j'étais là comme dans Fort Boyard, je disais « mais sors, mais sors !» Et les pompiers sont arrivés.
Tant pis pour la clé.
Tant pis. Et je me suis dit, et ma mère qui adorait son chat, elle a eu zéro réflexe de sauver le chat, que moi j'ai pris le chat, je l'ai emmené sur la terrasse. Enfin, j'ai quand même eu deux réflexes nuls, tu vois. Et
le pantalon, le chat.
Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, je pense que c'est parce que mon legging, il était en matière yoga, tu sais, nul. Je me suis dit, peut-être c'est inflammable. Dans ma tête, peut-être c'est ça qui s'est passé, je sais pas. Voilà, c'est mon histoire de, je me suis retrouvée en culotte devant les pompiers parce que j'ai enlevé mon caleçon comme réflexe à me sauver du feu. Voilà.
Je pense que quand même mon image préférée de tout ça, c'est toi dans la penderie qui essaye de te rattraper à des fringues qui te tombent.
Ah non, mais c'est
avec l'alarme incendie et ta mère qui gueule.
C'est pas complètement cartoon.
Ah non, mais c'est génial.
Surtout ramener la couette, c'est une excellente idée.
Oui.
Mais vraiment la détresse.
Cela dit, si ta mère avait saisi la couette et étouffé les flammes avec, cette histoire aurait été beaucoup plus courte.
Une couette, c'est très inflammable.
Oui, il y a vraiment des étiquettes partout sur les couettes. Ne pas approcher d'une source de feu.
Est-ce que j'ai l'air du genre de personne qui regarde les étiquettes des objets, Cédric?
Non.
Bien, très bien. Donc, sachez-le, pas de couette en cas d'incendie.
Alors, vraiment pas de
couette. Pas de leggings non plus. Hein, sauvez le chat, sortez d'ici.
Sortez.
Et ne faites sans rien du tout de tout ce que j'ai fait, à part sauver le chat, c'est louable.
Éteins-le avec la bouteille d'huile. Ah, bonne idée.
Voilà.
Eh ben, une excellente
très,
bolos.
Très bien.
C'était vraiment... en effet, c'est la meilleure. Et je pense, en effet, je l'avais déjà entendue, mais elle est toujours aussi drôle.
C'est ça, les vraies bonnes histoires, tu les réécoutes, ouais. Tu te marres toujours.
Est-ce qu'on commence les mini-kiffs?
Oui.
Qui veut commencer, chers amis?
Mini-mini-mini-mini-kiff.
Car j'ai le meilleur mini-kiff, comme ça, je mets la pression direct.
Ok.
Et je me permets de dire que le fait que ce kiff ne soit que mon mini-kiff est quand même un bon signe que ma vie est cool en ce moment. Okay. Puisque mon mini-kiff, c'est Gringe.
Ah non.
Ah
Car Gringe himself, donc Gringe qui est la moitié des Casseurs Flotteurs avec Orelsan et qui vient de sortir son premier album solo qui s'appelle Enfant Lune, est venu dans un petit podcast que j'anime qui s'appelle The Boys Club. Et il se trouve que j'adore les Casseurs Flotteurs depuis environ que les Casseurs Flotteurs existent et que... Merde, j'avais un autre truc, j'ai oublié. Bref, et que c'est un des rares épisodes que j'ai fait avec quelqu'un que je ne connais pas du tout et que Fab ne connaît pas non plus, puisque le plus souvent nos invités, il y a au moins l'un ou deux qui les connaît un petit peu. Et que en plus, ça s'est géré en 4 jours, c'était genre « Oui, tu veux venir ?»« Oui, je viens. D'accord. Ok. » Et qu'en plus, j'enregistrais l'épisode à 15h30 pour le sortir le lendemain à 4h du matin.
Oui.
Donc c'était plein de petits facteurs de stress, n'est-ce pas? Et donc, Gringe est venu. Et c'était un des meilleurs épisodes que j'ai fait, j'ai trouvé. Alors, en termes de fond, évidemment, après, je me suis dit, putain, il y a plein de questions que je vais pas poser, je suis vraiment une bolosse, j'aurais dû prendre des notes, je prends jamais de notes dans ma vie, je prépare jamais rien, voilà. Fabrice, si tu m'écoutes, et je sais que tu m'écoutes, désolée d'être une bolosse. Mais en termes d'ambiance, c'était hyper cool, on a déconné, on a ri et tout. Et j'ai trouvé ça trop cool parce que j'étais hyper stressée et que des fois quand je suis stressée, je chie dans la colle et je rate ce que je dois faire. Donc ça m'aurait un petit peu fâchée de rater mon seul moment de ma vie, a priori, avec Gringe devant un micro. Et que lui, il était cool, donc c'est toujours chouette d'avoir des invités qui jouent le jeu. Et que en plus, je me suis rappelée au moment de stresser car il venait, qu'il y a 2 ans, j'étais dans une... à peu près la même période, j'étais... non, 3 ans. J'étais dans une... plutôt nulle dépression, un peu vraiment pourri du cul. Je venais d'arriver à Paris, j'avais pas d'appart, j'avais pas de potes, je m'étais fait guélar par 2 gars que j'aimais bien à la suite, plus environ personne voulait ni toucher mon boule, ni sortir avec moi, et c'était au moment où les Casseurs Flotteurs avaient sorti leur film, et donc la BO de leur film, qui est un peu un film sur « Eh, la dépression, c'est nul, et si on essayait de s'en sortir ?» Et du coup, j'avais saigné leur album de ouf. Et 3 ans plus tard, je suis là en mode « Oui, je déconne avec Gringe au micro de Mademoiselle. » Donc je me suis dit... la roue tourne, a bien tourné, good et ça life. C'est cool.
Exactement.
Bravo Mimi.
Bravo.
Voilà.
Mimi.
Oui.
Trop contente
moi,
pour toi.
Une mini anecdote qui m'a fait marrer, c'est quand Gringe il est arrivé avant le début du Boys Club et que tu lui as dit oui c'est pour parler de la masculinité et qu'est-ce que c'est être un homme. Il était là ah bon. Il ne savait absolument pas.
C'est une personne à qui on pitch des choses. Alors à sa décharge, il est en double promo pour son album et pour le film Les Chatouilles dans lequel il joue, donc il passe sa vie à aller faire des milliards de gens qui veulent lui poser des questions. Mais effectivement, il était briefé, il était motivé, il avait totalement oublié de quoi on allait parler. Oui. Je l'avais briefé sur les questions un peu sensibles du type « je vais parler de ta bite ». Et il avait oublié, donc je lui ai dit « et donc comment va ta bite ?» Et il était là « sérieux ?» Oui, sérieux, quand même, je t'en ai parlé il y a des jours, donc oui, c'est toujours une réalité. Mais il était fun et il a joué le jeu, donc c'est cool.
Oui.
Il a pas jeté son micro en disant.
Il t'a surtout demandé en retour « comment va ta nénette ?»
Nénette, oui.
Voilà.
Et bien, oh, ben ça, c'est mignon.
Oui, vous serez ravis d'apprendre qu'elle va bien.
Elle a un mulet voilà.
Elle n'a pas un mulet.
Nouvelle coupe.
Mais en tout cas, oui, c'est un excellent boys club que j'ai eu l'honneur de monter en partie. Et je vous invite à aller l'écouter, puisque je mettrai en lien de ce podcast. Ouais. Voilà.
Car les N'hésitez podcasts, pas. C'est très bien.
Moi, je précise que j'écoute très peu les podcasts. J'en écoute toutefois parfois. J'ai écouté certains boys clubs, mais j'ai une place stratégique dans les bureaux de Mademoiselle qui se trouve être à côté du studio d'enregistrement. Je suis là, donc c'est pas... Voilà, pour les auditeurs, ça ne sert à rien, mais à côté de là où on est actuellement. Et je laisse traîner une oreille régulièrement. Et donc, on entendait un petit peu avec Camille, on disait « j'ai l'air trop bien, voilà. »
Oui, vous êtes les deux tatis sur le canapé à l'entrée de la salle de tournage en train d'avoir des opinions et de dire « Oh, ils ont l'air de bien s'amuser, dis donc là-bas. »
C'est vrai que oui, mais vous arrêtez pas de rigoler, c'était bien. Mais oui,
c'est vrai que ce canapé, c'est un peu officiellement devenu votre bureau à toi et Queen Cam.
Oui, tout à fait, mais c'est parce que, tu sais, on sait tout ce qui se passe, les gens qui font des points, on sait tout, tu vois.
Putain, ça surveille mon tatis Daniel, mais de ouf.
C'est clair.
Les deux tatas.
Ah, t'as vu ça?
Ah, oui, bah, moi, et pourquoi je voulais en parler en dehors du fait que c'est cool? Oui. C'est parce qu'il y a un dicton qui dit qu'il faut jamais rencontrer tes idoles parce que tu peux être que déçu. Et alors, bon, idole, c'est peut-être un bien grand mot. Je pense que j'ai pas beaucoup d'idoles dans ma vie. Mais c'est toujours cool de rencontrer quelqu'un dont t'admires le taf et où tu penses que sa personnalité est chouette et de pas être déçu et qu'il soit pas un gros connard ou prétentieux ou quoi. C'est juste genre, ah, c'est cool. Les gens cool et connus, c'est possible.
C'est voilà. Une personne de oui. Type sympathique.
Voilà, même s'il prononce le mot nénette de oui, plusieurs bon, reprises. Nénette. Alors, parler de ma vulve.
Pas trouvé ça craquant. Qui prononce le mot nénette.
Non, vraiment, c'est peu craquant. Dans le. Je suis désolée, j'ai monté ce moment-là, j'étais là. Vraiment, il dit un truc vraiment très intéressant. Et après, il dit nénette et machin, et il dit trifouiller la nénette. Genre, je suis. Eh, je suis.
Parce qu'il
j'ai dit un truc intéressant, mais je suis un peu marrant.
Mais quand t'es pudique, tu dis foufouillon, comme tout le monde.
Attends, pour moi, un foufouillou, c'est un labrador. Donc
Mais non, un foufouillon, comme dans Un Indien dans la ville. Très
alors,
bon déjà,
alors, dans la vie, t'es gentil.
Un chef-d'œuvre de la comédie française.
C'est vrai qu'il y a Ariel Dombal dedans. Et ça.
Est-ce qu'on passe à ton mini-kiff?
Oui.
Cette personne est schizo. C'est lémurien, quoi.
Oui. Vous avez.
Oui.
Non. Vous ne me voyez plus.
Oui.
Je suis cachée derrière mon micro.
Eh bien. Il y a quelques semaines, non, il y a deux semaines précisément, j'étais à Fontainebleau pour mon anniversaire. Et à Fontainebleau, j'étais au château de Fontainebleau. C'est pas mon kiff, mais voilà, j'étais au château de Fontainebleau.
J'ai l'impression que tu viens de dire en douce qu'il est nul. Tu sais, ah genre, non, c'est pas mon kiff, mais c'est un fait, j'y étais.
Très beau château. Cependant, si je peux me permettre, faut que je dise ça au conservateur de ce château. Dans la galerie de l'entrée, il y a des portraits très mal dessinés de toutes les idoles historiques.
Excusez-moi, monsieur, c'est moche. Donc, vous devriez faire quelque chose.
Vous devriez faire du modèle vivant parce qu'a priori, ça n'est pas proportionnel. Ça ne va pas du tout.
Mais on dirait qu'ils ont tous les dents de sagesse qui poussent. C'est trop bizarre.
Ils ont mis le filtre hamster sur tous les tableaux.
C'est exactement ça. Et du coup, bref, j'étais au château et machin. Et à un moment donné, je descends. Et là, je fais une rencontre. Je ne vais pas dire qu'elle allait bouleverser ma vie. Ce serait beaucoup trop pour ce qui s'est vraiment passé.
Tu racontes bien, hein.
Mais mon mini-kiff, c'est les grands-ducs, les hiboux. Et donc, parce que j'étais... Il y avait un type... Comment il s'appelle?
Cédric vient de se face-palmer pour les auditeurs.
On n'appelle pas ça un oiselier, parce que les oiseliers, c'est pour les petits oiseaux, je crois. Mais les gens qui s'occupent, les rapaciers... Bon, bref, un mec qui s'occupe des rapaces et autres oiseaux gros. Et en fait, du coup, il était avec des faucons et un grand-duc. Et
donc, fauconnier.
Un fauconnier, merci.
Oui, mais bon, là tu parles d'un hibou, alors moi je trouve ça prête à confusion.
Non, c'était un fauconnier en effet, qui se trouvait être en la rare possession d'un grand-duc. Je bois une gorgée, je vous reprends.
Allô ?
Toum, toum, toum,
oui.
Toum, 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 toum. Tu es prête, Thaline ? À toi.
Et donc je vois ce fauconnier avec son pigeon, putain, pas du tout son grand-duc.
Le mec a donné la en 3 secondes. C'est un fauconnier, il y avait des pigeons sur le bras. Ok, c'est donc un clochard plutôt, non?
Oh, la violence de cette blague!
Tu comprends au montage, loulou, les gens croient que Cédric est sympa!
Un peu d'irrévérence, merde!
Je vais faire une vanne sur les grosses têtes, mais j'en ai pas la
Ça aurait dû être mon gros kiff, ça, putain, merde!
Toujours.
Mais j'ai déjà parlé de Chantal là-dessous au moins deux fois. Bon, du coup, bref, pour en revenir au grand-duc, et donc il fait les faucons, machin. Et là, il en arrive au grand-duc, et c'est pas une histoire marrante, hein.
Ah, merci.
Mais c'est trop tard.
J'adore.
Et il arrive avec son grand-duc, et en fait, le grand-duc était très grand, il n'avait que 6 mois. Donc déjà, j'étais étonnée de sa taille. Et
Mais du coup, il était grand comment?
Il était grand comme une girafe à bière.
Quoi?
Genre une girafe Heineken, tu vois.
Quoi?
Ah, une girafe à bière.
Ça fait 1 mètre.
Non, alors peut-être pas 1 mètre. Est-ce qu'il était aussi haut que la table? Ou plus haut que la table?
Il était gros comme, haut comme la table, je pense.
Ok, vous voyez les tables basses qu'il y a à 5 balles? Il est haut comme ça.
Peut-être même plus. Bon, c'était un gros ça putain va, de grand-duc.
Ouais, il faisait 50
centimètres. Et en fait, le type nous raconte la vie des grands-ducs. Et j'ai appris que les grands-ducs avaient été décimés, en fait, un peu partout dans le monde, mais surtout en Europe. Et qu'ils avaient été cloués vivants aux portes des celliers
la
dans
violence
les granges.
J'étais pas prête.
Parce que c'était censé être les oiseaux du diable. Et en fait, pourquoi c'était censé être les oiseaux du diable? Eh bien, tout simplement parce que ils ont des très gros yeux rouge-orangés. Et donc, les gens pensaient que c'était l'incarnation du démon, du diable. Et donc, les gens qui étaient à l'époque très croyants avaient peur et voulaient se protéger contre le mauvais sort et du coup clouer les hiboux. Et au-delà de les clouer au mur, juste on les exterminait comme on a fait avec les dodos à l'île Maurice. Donc, ça m'a rappelé mon histoire et l'histoire des dodos, donc oiseaux qui peuplaient l'île de laquelle vient mon père. Et...
tu devrais faire une voix de documentaire.
Et les grands ducs.
Les dodos sont des gros oiseaux qui ressemblaient à des poulets qui ont été chassés. Exterminé et mangé par les premiers explorateurs de l'île Maurice.
Putain, il l'a tellement bien. J'ai envie que tu fasses toutes les voix de toutes les voix off.
Tu sais, il y a un bar où on va souvent qui s'appelle les... Il y a un bar où on va souvent qui s'appelle les Petites Poules à Paris 10. Et donc, dans les toilettes, il y a un écran qui diffuse perpétuellement des documentaires sur les poules ou des dessins animés, des cartoons avec des poules. Et le documentaire sur les poules, il est doublé par Claude Rich, celui qui fait Panoramix dans Missou Cléopâtre. Et il a trop une bonne voix. Et du coup, t'es en train de faire pipi. Et le mec, il fait « La maman poule couve son œuf ». Et t'es là « Yes, raconte-moi la vie des poules !» Quand t'as 2 bières dans le nez, t'es là « Oui, c'est trop bien !» Mais, c'est patriarcat, l'écran est mis de façon à ce que si t'es debout et que tu fais pipi debout, tu l'as en face de toi. Si t'es assis et que tu fais pipi assis, tu ne le vois pas, donc tu ne vois pas les poules. Donc le patriarcat a encore frappé.
Le patriarcat dû mettre sur la
part. Bâtard.
Non, Cédric.
Le patriarcat poule.
Non, vas-y. Oui,
donc
c'est, oui.
Les dodos, elle est morte.
Non, mais donc pas les dodos, mais donc les grands-ducs.
Oui, mais si, t'as dit que ça te rappelait les dodos.
Voilà, mais donc du coup, quand même, le grand-duc. Focus, oui. Et donc, en fait, jusqu'en 70, ils ont été exterminés. Il faut dire que les gens ont été vraiment très cons jusqu'en putain de 70, tu vois. C'était il y a quand même pas si longtemps que ça. Et
Cédric était presque né.
Cédric t'as presque été un fils de pute. Mmh. Et
t'as entendu parler de la manif pour tous? C'était il y a vraiment pas longtemps. Ça aussi. Les gens restent globalement cons très longtemps.
C'est vrai. Et heureusement, en 75, les gens ont été obligés par une loi, ils ont dû arrêter d'exterminer les grands-ducs. Et aujourd'hui, dans quelques rares régions de France, notamment dans les régions assez rocheuses, on peut retrouver des grands-ducs en liberté. C'est cependant très rare.
Mais ça finit bien. Quand
mais
même.
Ça finit sur ça une finit lueur bien. D'espoir, ton histoire.
Ça finit. Bah oui, je voulais pas. C'est quand même un mini kiff. Mais du coup, j'étais très contente parce que je ne connaissais rien au grand-duc et à vrai dire, j'en avais jamais vu pour de vrai. J'avais vu plein de hiboux, mais j'avais jamais vu un grand-duc. Et bah voilà.
Merci. C'était une fin abrupte, mais ok.
Tu racontes bien, mais faut travailler tes conclusions quand même.
Non, mais
ça
voilà,
m'empêche,
c'est
à chaque fois, depuis tout à l'heure, tu parles de duc, ça me fait penser à Booba et j'ai l'image d'un hibou Booba, tu vois, d'un hibou Booba.
N'hésitez pas à faire un montage.
Oui. Voilà.
Les gens qui touchent en Photoshop, n'hésitez pas, car
n'importe qui, à part toi et moi, Mimi, globalement.
Ça C'est vrai, car nous sommes particulièrement peu doués.
Ah, d'ailleurs, excusez-moi, je peux rebondir avec la meilleure vidéo de l'univers, puisque t'as parlé de grands yeux. Et oui. Du coup, j'ai.
C'est ri, ça ton kiff ?
J'ai pouffé. Non, c'est pas mon kiff, okay. C'est juste que ça m'a fait penser à ça. Donc, Kalindi parlait du fait que les grands ducs ont des yeux gigantesques. Mmh. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, nous sommes donc jeudi 15 novembre. Hier, mercredi, on tombe, ça faisait déjà plusieurs jours que cette vidéo tournait sur Internet, une vidéo d'un homme qui filme avec son portable un chat errant dans la rue, enfin dans son jardin plutôt, et ce chat errant a, on peut le dire, une sale gueule.
Il est moche !
Il est hideux !
C'est pas grave, j'adore tous les chats, mais
il est
moche.
Il a d'énormes yeux qui.
Mais le mec est vraiment vénère. Hein.
Qui ne regarde pas dans le même sens.
Et qui ne cligne.
Et qui ne cligne
regarde,
pas.
Alors, mais qui regarde sont... genre tu sais pas quoi. Il regarde le fond de ton âme, le chat.
Oui,
genre,
c'est un vraiment, peu ça.
Il ne perçoit rien d'autre que le genre du décor.
Ainsi que dedans, qui lui passe devant le nez.
C'est vrai. Et depuis sa mâchoire inférieure.
Depuis sa mâchoire c'est inférieure. Vrai. Donc vraiment, c'est dedans qui sortent comme un vieux toutou, mais sauf que c'est un chat, ça n'arrive jamais. Donc du coup, c'est un peu chelou.
Ah non, mais c'est vrai. C'est
et
le
donc,
chat
donc la vidéo, je vous la mettrai en lien, bien entendu. On en a parlé sur Mademoiselle, c'est Esther qui a fait l'article.
Est-ce que tu pourras mettre un extrait sonore
Oui, je peux mettre un extrait sonore. Extrait sonore maintenant. Vous avez donc...
Elle est pro, putain.
Blink, motherfucker.
Putain, elle est balèze.
Vous avez donc entendu un extrait court de cette vidéo. Donc, vous entendez cette personne hurle à la mort contre ce pauvre chat qui n'a rien fait, qui ne bouge pas d'un poil, d'ailleurs. Et il est en train de dire « Oh, maman, il y a un vieux chat errant dégueulasse. Il ressemble à mamie. » Et après, il se tourne vers un autre chat qui est en haut, posé sur un rebord de fenêtre et il lui dit « Oh là là, je veux pas qu'il commence à
embêter Lucie.
Embêter Lucie, ça va aller. » Lucie!
Le chat, il s'en bat les couilles. Lucie s'en bat les couilles de tout.
Lucie s'en bat les couilles. Et puis, il se retourne vers l'autre chat, il est là. Mais putain, cligne des yeux! Sauf qu'en anglais, c'est d'autant plus drôle parce qu'il lui dit Blink, motherfucker! Avec son accent américain génial. Et donc, ça m'a fait énormément rire. J'ai passé la moitié.
Attends, mais le mieux, c'est genre la dernière
seconde
où le chat qui bouge pas d'un poil se met à avancer vers le mec. Et le mec, il a genre. Et ça s'arrête là.
Exactement.
Ah, c'est parfait.
Et donc c'est génial. Et donc cette vidéo, je l'ai regardée vraiment beaucoup de fois mercredi. Et j'ai passé toute l'après-midi à dire blink, motherfucker, blink, blink, motherfucker. Et au bout d'un moment, je me suis dit tiens, mais c'est si drôle, je vais la partager sur le compte Instagram de Mademoiselle. Mais je me dis je vais trouver la source de base. Donc je commence à taper hashtag blink motherfucker sur Instagram, car pourquoi
c'est
pas.
C'est là qu'on sent la fibre journalistique, tu vois. Elle a trouvé le fil d'Ariane vers la source.
Et je trouve plein de cette vidéo repostée sur plein de comptes différents. Puis je me dis bah tiens, je vais trouver l'original. Et je tombe sur un mec qui tague un gars, et donc je tombe sur la vidéo en question, puis le gars en question tague quelqu'un d'autre, du coup je commence à faire le fil des comptes Instagram, puis en fait je me rends compte que ce chat est un chat Instafamous, il a 75 000 abonnés.
Non.
C'est là où tu sens qu'on est des très mauvaises journalistes quand même.
Et donc il a 75 000 abonnés, je me dis génial, en fait ce chat est ultra connu, donc je vais voir Esther qui a écrit l'article en lui disant regarde le chat trop marrant, en fait il est hyper connu. Et je tombe sur la vidéo originale dans le feed de la meuf, puis je commence à mettre le son et il se passe rien. Et je fais mais que se passe-t-il, pourquoi il n'y a pas le son de la vidéo, c'est-à-dire que normalement il y a quelqu'un qui crie. Et en fait juste il y a un mec qui a rajouté sa voix par-dessus une vidéo que sa maîtresse a pris de manière très cool. Elle était là, elle montrait son chat puis son autre chat, puis voilà, elle a arrêté la vidéo quoi.
Et donc il y a un mec, un génie de l'humour, écoute.
Et donc il y a un mec qui est un acteur américain qui s'appelle Michael Rappaport, qui est a priori pas une personne très sympa de ce que j'ai cru comprendre, mais qui a quand même été très futé et très marrant de faire cette voix off sur cette vidéo qui a priori n'avait rien de spécial et qui
à
m'a
part,
fait
chat quand même l'aide du cul.
Le chat le plus arbi du monde.
Oui, mais en fait, si tu veux, c'était sur le compte Instagram du chat. En vrai, il y en a 12 000 des vidéos de lui, tu vois. Oui, pourquoi prendre celle-là plus qu'une autre. Et du coup, bon, voilà. C'était quand même hilarant et j'adore Blink Motherfucker.
Mais c'est le signe quand même que c'est une bonne vidéo, c'est que même en sachant que c'est un fake, elle est quand même marrante.
Bah,
c'est clair. Je le sais, je l'ai re-regardé 4 fois depuis et j'ai ri 4 fois.
C'est vrai que c'est très drôle. Mais même le compte Instagram est très drôle parce que vraiment il y a des légendes gauleries sous les photos du chat. Et genre vraiment, c'est le chat qui a le plus de cernes. Déjà, je savais même pas que les chats avaient des cernes, tu vois.
Ouais, c'est clair, faut qu'il dorme ce chat, quoi.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que donc j'ai fait un peu des recherches en me disant, mais merde, peut-être qu'il va pas bien ce chat, ou j'en sais rien. Et en fait, non, la maîtresse, elle dit juste, c'est un chat qui ressemble pas à tous les chats, bon voilà. Mais il va très bien. Il va très régulièrement chez le vétérinaire, tout va bien. C'est
il
juste
va à la selle, bon.
C'est juste qu'il est moche. Bon, bah
il
voilà, il est moche.
Voilà. T'imagines si on faisait ça en tant qu'humain, on allait voir les gens très moches, on disait, vous êtes sûr que ça va?
Oui, vous êtes maltraité ou pas?
Est-ce que vous avez quand même une sacrée gueule de merde?
Vos dents là! Qu'est-ce qu'on a
fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
T'imagines?
Mais oui, je sais. Mais c'est vrai que, bon, les lectrices s'inquiétaient. Du coup, je me suis dit, tiens, on va vérifier qu'il va bien quand même. Oui, bah, il va très bien.
C'est tout à ton honneur,
tu sais. Mais il y a ce truc chez les chats, c'est félin, c'est mignon, c'est joli. Tu vois, du coup, quand t'as un chat moche, t'es là, genre, pourquoi?
Bah, ici, on n'a pas l'habitude.
Genre, tout le monde aime les chats, parce que vraiment, globalement, c'est trop la classe, quoi. Moi, j'aime pas les chats, je suis allergique, ils peuvent me faire mourir.
Je m'en bats les couilles, mais.
L'honnêteté de Kalindi. Bon, très bien, voilà, c'était mon anecdote, ma anecdote.
Non, c'était pas une anecdote, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée cette semaine.
C'est vrai que c'est...
Anecdote comme.
Est-ce qu'on peut dire anecdote?
Oh donnez-nous votre avis, car là, je sais pas trop quoi penser.
T'as fait un haut neutre.
En vrai, ça pourrait être un vrai truc qu'on fait une anecdote et une anecflop à chaque fois, tu vois.
Ah oui, mais bon, entre les mini kifs, les gros kifs, les mid-bolos, les anecdotes et les anecbof, c'est un long podcast déjà. Et puis, il faut avoir des trucs dans sa vie, quoi. J'ai pas assez de trucs dans ma vie. Bon, si j'ai une anecdote, c'est mon gros kiff.
D'accord, ok.
Ma vie est calme. Désolée, Kalindi.
Cédric, il est en train de regarder son portable, il s'en fout.
Non, je pense qu'il check son kiff.
Je recheck les détails de mon kiff.
Vas-y, Cédric.
On t'écoute, Cédric. Vas-y, c'est l'heure maintenant.
Moi, j'ai un mini kiff, mais en vrai, ça pourrait être un gros kiff.
Deux gros kiffs, ça veut dire.
Bah, en fait, ça peut pas être un gros kiff parce qu'une fois que t'as pitché le truc, après, il y a pas grand chose d'autre à en dire. Voilà.
D'accord. Tu le vends bien.
Ok. Je crois que j'ai compris.
La personne qui savait passionner son auditoire.
C'est clair. Non, mais en fait, c'est une BD qui m'a fait kiffer de ouf, alors qu'il se lit en 20 minutes à tout péter, et qui est donc une BD d'un mec qu'on peut retrouver sur Instagram qui fait plein de trucs géniaux, qui s'appelle Tom Ogomat, qui est français. Et en fait, sa BD est parue il y a quelques semaines.
Attends.
Et ça s'appelle...
Attends, on rit pour une raison. Qui, tu as dit des trucs géniaux et Kalindi a fait une moue de géniaux. Et donc,
je l'ai pas dit, putain, la première fois que je t'ai poli.
Mais on s'est regardé en se disant, on a tout vu la tête de Kalindi et repéré la faute. Et donc,
car
on n'a pas pu.
Une truc, et donc, je l'accorde au genre.
Voilà, pardon, Cédric. Désolé.
Non, et donc, en fait, bah, ce bon tome Ogomat. C'est un graphiste, je crois, à la base. Et en fait, j'en ai parlé avec Sophie Hénin, une des graphistes des nains. Ah oui, il y a un D apostrophe, ouais. C'est vrai.
Refais ta phrase.
Mais Sophie Hénin, elle joue dans le Hobbit.
Je serais vous, je me désabonnerais immédiatement de ce podcast.
Alors,
faute grave.
Bon, c'était drôle, attends.
C'était drôle.
Les meilleures blagues de Kalindosh at mademoiselle.com.
Tata Kalindosh, toujours là pour vous faire rire pendant vos fêtes de famille.
Donc, t'en as parlé avec Sophie.
Oui, et en fait, Sophie me disait, ouais, ce gars-là, il est super génial parce qu'en fait, il fait plein d'illustrations un peu stylées qu'on dirait que c'est du Illustrator parce que tellement c'est précis et joli. Et en fait, non, c'est du dessin et de la gouache.
Ooh.
Et ça ressemble beaucoup à, je sais pas, des dessins un peu de signalisation qu'on trouve dans les avions, tu sais, genre la planche.
Ouais.
En cas d'amérissage, sautez sur le truc jaune, mais surtout, mettez pas vos talons, sinon tout le monde va mourir.
Mais t'as ça, beaucoup lu ce genre de truc.
Mais à chaque fois, j'adore ça, c'est ma passion dans les avions, de regarder les trucs et de voir en fait les situations. Des fois, t'as des gens, ils sont comme ça devant la porte ouverte, ils font « Non, vous ne passez pas, c'est pas encore déplié le truc ». Bref, on s'en fout.
Et les donc, passions en fait, de c'est Cédric.
Ce genre d'imagerie, un peu de panneaux ou je sais pas, tu vois, genre un peu... Moi, j'aime bien en fait ce truc-là.
Moi aussi.
Globalement,
j'ai
ça,
une longue fascination pour les pictogrammes et les trucs de signalisation. Je dis même pas ça au second degré.
Non, il y a une vraie poésie dans ce truc-là. Et en fait, Ogomat, il travaille sur un truc qui est assez proche de ça. Et donc, mais en beaucoup plus beau qu'un putain de panneau de civilisation. Et donc, en fait, il y a quelques semaines, il a sorti cette BD qui s'appelle À travers, qui est assez cool parce que c'est un concept très con. Enfin, très simple, mais ultra bien réalisé. C'est qu'en fait, tu suis la vie d'une personne depuis sa naissance jusqu'à très tard dans sa vie. Et en fait, à chaque fois, sur les deux pages, sur la page de gauche, tu vois la personne dans son environnement et sur la page de droite, tu vois ce qu'elle est en train de voir. Exemple très con, le toute première page, tu vois sur la page de gauche, le petit bébé qui est dans dans le ventre de sa maman. La page de droite est complètement rouge parce que ce que le bébé, il voit, c'est du rouge. Et au fur et à mesure, la deuxième page, il est sorti de son truc, il est dans son petit berceau en bois, il voit des trucs flous au loin avec des barres au milieu qui bloquent le truc.
Okay.
Et au fur et à mesure, il regarde à travers des planches de palissade. À un moment, il a enlevé le livre d'une bibliothèque, donc tu le vois sur la page de gauche, il enlève le livre d'une bibliothèque. Et à droite, tu vois qu'il est en train de voir une meuf qui est derrière sur la table, tu vois, là-bas et machin.
C'est malin.
Et du coup, c'est en fait, non seulement c'est malin, mais vraiment, en plus, c'est du porno pour graphistes et pour, pour gens qui kiffent bien un peu les formes et les dessins et les designs à travers des dessins.
Les couleurs.
Non, mais c'est ça, mais ce truc de, tu vois, dessiner sous la contrainte.
Ouais.
Un machin, quoi. Et du coup, en fait, tu suis donc la vie de ce petit garçon qui va se passionner pour la science-fiction, les fusées, tout ça, qui va finir par travailler à la NASA. Et il lui arrive, en fait, plein d'histoires. Et donc, lui, il naît en Alaska dans les années 70, il me semble, et la BD va jusque dans les années 2020-2030. Donc, t'as en plus un petit côté un peu dystopique. Il est né dans une époque qui est dans notre passé, et puis son histoire continue dans une époque qui est future à la nôtre.
Il dit ça avec poésie, c'est un peu dystopique. Comme si c'était un truc stylé, la dystopie, tu vois.
La dystopie,
c'est le seul. Là, on va cramer des bouquins.
C'est mignon.
C'est un spoiler pour un livre dont on taira le nom. Voilà.
Et donc, du coup, t'as quelques moments où en fait ce truc-là s'arrête, des moments importants de sa vie où du coup t'as des vrais designs un peu stylés qui prennent les deux pages entières et tu passes ça une page après l'autre. Et donc, une espèce de fascination et de retour entre les insectes et l'espace. Et en fait, donc, il n'y a pas une ligne de dialogue dans tout le bordel. Et vraiment, ça se lit comme ça au fil de l'eau. Et c'est super poétique et c'est super beau et je trouve ça très très joli. Et en plus, Tom Ogomat est français. C'est toujours bien de pousser en avant en plus les petits français qui font des trucs qui défoncent.
Trop bien.
Et donc,
ça s'appelle...
j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle À travers.
À travers. Ok.
C'est une BD qui coûte donc entre 16 et 19 euros en fonction de là où vous l'achetez. Mais
idéalement
vraiment,
chez votre libraire préféré.
Idéalement chez votre libraire indépendant, bio, sans gluten préféré. Et en fait voilà, moi ça m'a fait vraiment kiffer déjà parce que en fait lire des histoires sans texte j'aime bien et que je trouve ça cool et que ça se lira rapidement et que c'est vraiment une éloge à l'invitation au voyage en 20 minutes et c'est bien ça aussi,
c'est trop cool.
T'es une personne politique dans poétique dans ta globalité.
Non.
Je l'aime tellement.
Très bien, donc mon kiff de transition. Alors attendez, il faut que je me souvienne.
Oh putain, non, les gens les mieux préparés d'Internet.
C'est juste que j'ai besoin d'avoir le nom sous les yeux, car déjà je suis pas sûre de le prononcer correctement.
Casey Neistat ?
Pas du tout. Ça aurait pu, mais non. En fait, j'ai découvert récemment une nouvelle série que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Ynglevend.
Tu te mets des challenges à toi-même, Loulou, quand même.
C'est peu de chance que j'ai bien prononcé ce mot. Enfin, c'est deux mots. N'hésitez pas si vous habitez.
C'est deux mots.
Si vous savez pas.
Ynglevend. Alors, donc, c'est pas
ça
espagnol.
Ça s'arrête tout.
Attendez, Ynge.
Ah.
Lovend.
D'accord.
Je sais pas si ça se prononce comme ça. Si vous habitez en Norvège. Si vous habitez en Norvège, n'hésitez pas à me dire.
On t'aurait dit
si
ça avait été de l'allemand. T'as deux spécialistes de l'allemand ici. Donc,
Ynge.
Voilà.
Pourquoi tu m'inclus là-dedans?
Parce que t'es de Strasbourg.
Mulhouse.
Ah oui, bon,
Colmar,
c'est pareil.
Colmar, pour être précise. Brunstadt, voilà, si tu veux rentrer dans les détails, mais ça n'intéresse personne.
Brunstadt.
Brunstadt.
Yo, en
vrai, y a pas de glau.
Deutsch. Ich bin müde. Allez.
Ça veut dire quoi?
Kartoffel salat. Je suis fatiguée, c'est la seule chose que sait dire Fabrice Florent.
Il le dit très bien.
Ich bin mis deux. Et après, il rigole.
Il y avait un pote de Léa Castor qui était allemand au bureau, qui est venu déjeuner. Et donc, bah, il parlait en anglais avec les gens, parce que voilà. Et Femme a voulu lui dire « Je mis deux » en allemand. Et le mec l'a fait répéter trois fois. Et après, il a dit « Oh, I am tired. » Femme, il est parti.
Excellente anecdote.
Oh là là.
Bisous, Fab.
Bisous, Fab.
On adore. Donc, Ingelvend, c'est une série norvégienne. Et en fait, je l'ai découverte parce que j'avais une pub avant une vidéo YouTube. Et j'ai entendu que ça parlait norvégien. Et j'ai regardé Scam, une série... une autre série norvégienne. Mais non, mais je vais t'expliquer d'où ça sort. En fait, j'ai regardé Scam, une autre série norvégienne dont on avait parlé fut un temps avec Allison dans un C'est ça qu'on aime, l'ancêtre de Laisse-moi kiffer. Et je me suis pris de passion pour cette série que je trouvais très bien. Et donc là, je mets une vidéo YouTube et je vois que ça parle norvégien parce que je me souviens en fait de quatre mots globalement, genre trois.
Par c'est quoi, exemple, c'est quoi
je sais plus.
Fan.
Je sais quand je l'entends, mais je saurais pas te le dire.
Fan, ça veut dire merde.
Ah.
Ouais, c'est ça.
Fan.
En fait, ça veut dire merde fan, mais il le répète plusieurs fois.
Je te crois pas du tout. Tu dis fan.
Non, tu dis merde. Non, c'est vrai. Non, pour de vrai, fan.
Envoyer un mail à merde en norvégien à peu.com pour dire à Cédric qu'il a tort.
Oui,
car je ne le crois pas.
Merci,
j'ai essayé de prendre une photo, mais j'avais pas mon téléphone. Kalindi a posé nonchalamment son micro entre ses seins et il tient alors qu'elle n'est pas vraiment allongée. Comme ça, elle n'a pas à le tenir. Ouais. Et ça, c'est beau.
Comme ça, je peux boire ma bière, jambes écartées. Posé avec mon micro.
Magnifique.
Ouais, je fais ça.
Et donc, comme j'entends que ça parle norvégien, je me dis oh, trop bien, ça se trouve, c'est une nouvelle saison de Scam!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Pas du tout.
La
bah écoute, on sait jamais, on peut espérer, ok. Si d'ailleurs, si vous n'avez pas vu Scam, n'hésitez pas à aller regarder Scam. C'est une excellente série sur l'adolescence qui est
mais
très bien.
Mais du coup, pendant les 6 premiers épisodes de Young and Undone, tu pensais que c'était Scam?
Mais non, bien sûr que non. J'ai vu une bande-annonce sur YouTube et je me suis dit, tiens, c'est quoi? Et en fait, au lieu de passer la pub comme je fais d'habitude, j'ai attendu la fin. J'étais là, je veux savoir quelle est cette série, donnez-moi le nom. Et donc, en français, ça s'appelle Meilleurs Espoirs, ce qui est un peu nul. Je préfère donner le nom en norvégien, même si je le prononce mal.
Deuxième chance.
Et en gros...
Essaye encore.
T'as juste dit que t'es pour rendre...
C'était une série qui passait sur TF1 avec que des acteurs vieux du cul, genre les anciens d'Hélène et les garçons, des acteurs nuls. Et il y avait Nicolas dedans. Et ça s'appelait Deuxième Chance. Et ce qui était un peu un clin d'œil à regardez, vous avez un peu raté votre vie.
Deuxième chance d'avoir une carrière.
Ah, c'est chaud.
Bref. Ah oui, je me souviens de ça. Et donc, j'ai attendu jusqu'à la fin. Et en fait, je me rends compte que la première saison est sortie en France sur France TV Slash, qui est la version. France TV Slash, qui est la version web de France TV.
Ah
ouais, bah, t'es informé, toi.
Tout à fait au courant de ce que tu dis.
Oh là là. Et donc France TV Slash, en fait, ils sont en train de faire Scam version française. Donc, en fait, ils sont en train de réadapter toutes les saisons de Scam norvégienne en français. Donc, c'est vraiment du copier-coller. Ils ont juste traduit et ils font les mêmes scénarios. Ce qui est quand même bien parce qu'en fait ça permet de découvrir cette série, c'est cool. Mais donc du coup là ils ont sorti cette série et c'est en VO STFR toute la première saison. C'est 6 épisodes de 30 minutes. Et donc en gros c'est l'histoire de 3 meufs. Et en fait tu pars du personnage de Elise qui est une nana qui revient des États-Unis où elle veut faire du stand-up. Et en fait elle est censée revenir en Norvège 3 jours histoire de renouveler son visa et de repartir. Et bien sûr elle se fait refuser son visa car la meuf à l'ambassade lui dit « Vous voulez travailler ?» Elle fait « Non, non, je veux juste faire du stand-up, des trucs genre voilà quoi !» Et donc l'autre elle lui dit « Bon bah bye, en fait vous revenez quand vous aurez des sous car a priori vous allez travailler illégalement, bye !» Et donc du coup, en fait, elle se retrouve, elle a 25 piges, et elle se retrouve à revenir en Norvège alors qu'elle n'avait pas du tout prévu. Donc elle retrouve ses deux meilleures potes. Et donc elles sont toutes les trois un peu genre à mi-vingtaine à se dire qu'est-ce qu'on fout de notre vie, à essayer de rentrer. Donc il y a Élise qui veut rentrer aux États-Unis pour faire du stand-up. Il y a Alex qui veut devenir comédienne et qui essaie de rentrer au conservatoire. Ça fait déjà la troisième fois qu'elle passe les concours et qu'elle l'a pas, et donc elle est saoulée. Et il y a, comment elle s'appelle la dernière?
Est-ce que tu viens de clasher la porte de la série?
Oh, vieille meuf. Et toi qui voulais être actrice, Kalindi, on en parle ou pas? Bon.
Le podcast du kiff. De la bonne humeur.
Et des règlements de compte. Et la troisième, j'ai perdu son prénom. Elle s'appelle Ninon et elle veut écrire. Mais sauf que son taf au quotidien, c'est de bosser pour un traiteur, donc vraiment peu ce qu'elle fait dans sa vie. Et donc toutes les trois, elles sont un peu paumées et c'est un peu leur histoire. Donc là, j'ai vu la première saison que j'ai bouffée en 3 heures, hein, vraiment. Donc voilà. Et voilà, donc c'est trop bien. Et je vous invite à regarder ça et à pas vous laisser impressionner surtout par le norvégien, parce que j'ai parlé de Scam avec des potes qui m'ont dit genre franchement, j'ai regardé, c'est compliqué. Enfin, ça parle une langue que je connais pas et du coup c'est chiant.
Non mais ça va, vous avez tous regardé La Casa des Papel, c'est pas plus compliqué.
Et alors, en termes de ressemblance,
non, mais dans tous les cas, il y a des sous-titres,
proche.
Tu parles pas
non,
la
mais
langue.
Tu vois, c'est...
Tu
vois. Non, mais
sauf si vous avez fait espagnol comme tous les gens qui n'ont pas de personnalité. Oui. Bon,
dans le choix.
Non, mais c'est. Non, mais alors attends, là, mais là.
C'est ma snob de 5e qui est remontée parce que j'ai fait
allemand. C'est clair. C'est allemand deuxième langue.
Tous les gens qui n'ont pas fait latin, je vous emmerde.
J'ai tellement regretté d'avoir fait latin, putain. Alors sachez-le, si jamais tu es en 6e et que tu écoutes ce podcast. Un choix intéressant de vie, mais ok. Si tu es en 6e et qu'on te dit fais latin, il y aura un voyage en Italie, ne dis pas oui. Parce qu'en fait, tu vas faire 3 putains d'années de latin et après, tu vas aller en Italie 10 jours, ce qui est sympa. Mais en termes de ratio, c'est perdu. C'est nul.
Voilà. Fais plutôt grec ancien.
C'est probablement le message.
C'est russe.
En vrai, c'est probablement le message le plus important. On est passé de tous les laissements. Non mais je
de
trouve.
Ces
non mais c'est
une heure et demie de podcast que vous avez écouté.
Si une Mimi à l'époque m'avait dit meuf, tu vas jamais partir en Italie. En vrai, le latin s'est pété du cul. J'aurais fait génial. Je vais pas faire ça jusque en fucking terminale. Merci Mimi de le.
Vous êtes en train de niquer mon gros kiff, c'est faire du latin.
Mais pour revenir, tant qu'on parle des langues chiantes.
Oui.
Donc, pour revenir au
norvégien.
Non, mais c'est juste que c'est pas bon, c'est pas à la base très facile de comprendre, d'accord. Mais dans le tout premier épisode de Laisse-moi kiffer, souvenez-vous, on parlait de Terrace House, où
putain,
ça
oui.
parle japonais. Et en vrai, le japonais, je capte rien non plus, et c'était un peu compliqué. J'étais là, genre, je ne peux pas faire autre chose, même manger une bouchée, j'ai pas compris ce que vous avez dit dans les 3 secondes où je regardais pas. Et donc, c'est un peu pareil pour le norvégien, mais en fait, on s'y fait, et au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est que t'apprends des mots. Je peux pas vous répéter le chiffre 3, mais tu les comprends quand ils
oui,
le disent.
T'as retenu, quoi.
Et
Fais faire la vanne la plus nulle de la terre.
Vas-y.
Quand je vais pas répéter, j'ai failli faire prout-prout.
Quoi ? Ah, répéter, prout-prout. Excellente.
Elle est en forme, Kalindi, ce soir.
Potentiellement, parfait.
Oh là là. On a la meilleure Kalindi du monde. Elle a commencé ce podcast en disant « Je vous préviens, ça va pas être très bien. »
C'est clair.
Oh, ça fait bon, je trouve que ça fait partie des meilleurs qu'on ait fait jusqu'à présent. Hein.
Oh oui, qu'est-ce qu'on rit.
On rit bien. Qu'est-ce que je disais ? Donc je vais pas répéter, prout-prout.
Que tu comprenais pas du tout les deux langues, mais que mais tu finis par te familiariser.
Vraiment, vous laissez pas arrêter par ça, parce qu'en vrai, la série est cool, et ça raconte des histoires de meufs paumées, et je pense qu'on est beaucoup à ressentir ce genre de choses quand on a 25 piges, mm-hmm. ou un peu moins, ou un peu plus. Mm-hmm. Et voilà, donc je vous invite à regarder cette série qui est cool, et j'adore les séries norvégiennes. Ça va être ma nouvelle passion de trouver des nouvelles séries norvégiennes.
Voilà. Alors, justement...
T'as écrit un article sur les séries scandinaves.
Allez,
vous pouvez aller sur le site mademoiselle.com et vous verrez dans la rubrique séries un article qui s'appelle 4 séries du Nord. Voilà.
Scandinaves. 4 séries du Nord. Scandinaves pour te réchauffer. Je sais pas.
Bon, il y a les ch'tis. Bon, alors.
T'as les ch'tis avec un accent belge. Mais parfait.
Mais on l'a
pris. Il va te virer, tu sais.
Pardon.
T'as insulté son peuple.
J'ai pas insulté, j'ai pris un mauvais accent. Bon, je me suis gourée.
Pardon, mais, je me suis trompée.
Mais je te recommande très vite fait. J'ai vu plein de séries des pays nordiques et ma préférée c'est Yorkscott. Et Yorkscott, c'est une série suédoise. C'est en gros l'histoire d'une meuf qui est flic et en fait un jour elle va faire un pique-nique avec sa gamine au bord d'un lac, stylé. Sa fille disparaît, moins stylée. Elle se...
Il fallait s'y attendre.
Bah c'est une série norvégienne.
Il n'y a pas de série quoi.
C'est ça. Et donc, elle revient 8 ans après dans cette ville, qui est sa ville natale, et en fait, elle retrouve sa fille qui avait disparu pendant 8 ans.
Est-ce que la gamine, elle a toujours 8 ans?
Sa fille n'est plus vraiment sa fille. Je vous laisse là-dessus.
Voilà, c'était mon kiff de transition, et j'en profite
pour... J'ai trop hâte de découvrir.
Allez faire pipi!
Ah, on fait ça maintenant!
Oui! Ça change!
Une blague, Cédric, aide-nous, on peut dire un truc que Louise elle découvrira au montage.
Louise, non, abusé, que... pipi, poupou.
C'est quoi ton expression préférée?
À moi?
Ouais.
Me compas sur le haricot, c'est celle que je prononce le plus
du
en
cul.
Tout cas. Okay. Et toi?
Tout ce qui est du cul dedans, c'est bien.
Je crois que j'aime bien prendre des vessies pour des lanternes parce que j'ai mis hyper longtemps à la comprendre. Ouais, je voyais vraiment pas le rapport.
Mais je comprends, moi c'est qui d'ordine, j'étais là.
Ouais, je suis pas sûr de voir qui prend des vessies pour des lanternes d'ailleurs.
Alors, 2 secondes, j'aime beaucoup découvrir le... Sinon, j'ai oublié. J'aime beaucoup découvrir le poteau rose, parce que c'est une expression que la moitié des gens ont mal parce qu'ils l'ont pas vu écrit.
Ils pensent que c'est un poteau rose.
Et une fois, j'avais ma meilleure amie, on était dans une conve avec une autre pote, et elle râlait sur les gens qui sont pas cultivés. Enfin, elle faisait un peu sa meuf en mode, non mais tu te rends compte, la meuf, elle savait pas ça. Et elle a dit genre, c'est comme si tu savais pas l'expression découvrir le poteau rose. Et avec ma pote, on s'est regardé, on était là.
Vieille meuf!
Ça va être trop bien! C'était génial. Voilà, bisous Soso.
Donc on enchaîne avec les gros kiffs.
Oui.
Ouais. Alors qui veut faire
générique?
Gros kiffs, c'est comme des mini kiffs, mais ils sont super ultimes de ouf.
Waouh, truc de ouf.
Ah, c'est un super jingle. Bravo Cédric.
Je pense que ça ne nécessite pas qu'on reprenne en cœur. Je pense que c'est bien.
Bravo, bravo.
Le respect. Mimi.
Oui.
C'est dur d'enchaîner.
Pardon. Désolée. J'ai dit 2 mots et ça vous met pas bien, mais j'ai plus rien.
Bah, le respect, c'est quand même le truc qui invoque le plus Julien des Marseillais, si tu veux. Donc, pour moi, le respect, c'est un mot maintenant qui n'a
c'est
plus de sens.
C'est pas les problèmes. C'est un autre les problèmes.
Écoute Mimi, va faire un tour à la télé, on en reparle après, quoi. S'il te plaît.
Je connais rien à son doublage. Donc, mon gros kiff. C'est alors mon gros kiff, sachez que j'en parle ici pour m'obliger à m'y tenir parce que maintenant je vous l'ai dit, donc vous le savez,
okay.
C'est que j'ai acheté une cigarette électronique.
Voilà.
Moins car, cancer du poumon. Oui. Peut-être
de,
d'autres cancers, on sait pas. Moins
cancer.
Oui, mais j'allais fumer ma clope électronique. J'allais vapoter. Je vais pas te dire Cédric, tu vas aller vapoter car je ne suis pas une mauvaise personne. Je te dis tu vas aller fumer car on va en pause clope, sauf que moi je ne clope pas.
Ah là là.
Parce que donc, petit topo sur ma life, je fume un paquet, enfin un peu moins d'un paquet par jour depuis que je suis en terminale.
Ne faites pas ça.
Ne faites pas ça. Je suis maintenant plus du tout en terminale depuis quelques années.
Ne faites pas ça.
Au moins, et je n'ai jamais arrêté de fumer, pour plein de raisons, dont l'addiction, mais dont aussi une absence d'envie d'arrêter.
Ne faites pas ça.
Voilà. Et j'avais essayé, et donc, quand il y a eu la clope électronique, je me suis dit, cool, ça peut être un truc qui peut m'aider à arrêter, puisque ça, ou au moins à réduire, puisque ça a l'air d'aider plein de gens. Donc voilà, fumer c'est mal, vous le savez, on vous l'a dit, on peut peut-être arrêter de le dire, parce que de toute façon tout le monde le sait, fumer c'est pas bien, ne le faites pas, ça ne sert à rien. C'est mieux de ne pas fumer. Mais en attendant, je fume.
Quand on a commencé, on est dans la merde.
Voilà, généralement. Et en fait, j'avais essayé 2 fois dans ma vie pour de bon d'arrêter de fumer. La première fois, je me suis pété la cheville et j'ai eu 40 jours de plâtre. Et j'étais là, bon, on va peut-être pas enchaîner les deux. Donc voilà, on va peut-être pas cumuler les épreuves de la vie. Donc j'ai continué à fumer. Ne faites pas ça. Et la deuxième fois, c'est tombé 5 jours avant une campagne de diffamation à l'envers de Mademoiselle. Voilà, c'était en septembre 2016, c'était Good Times. Donc encore une fois, j'ai dit, un combat à la fois, je vais déjà encaisser ça. Et ensuite, peut-être j'arrêterai de fumer, c'était il y a...
Donc est-ce qu'on doit se méfier?
T'as pas peur de déclencher un act of God en arrêtant de fumer à chaque fois?
Mais alors, peut-être que le seum va arriver. Et vous ne pourrez pas prouver que c'est moi.
Eh ben, je vais regarder la vidéo de Michel Rapaport plusieurs fois, comme ça, ça me
fait envie.
Michel Rapaport
que... Ouais.
On est passé de Michael Rapaport à Michel Rapaport.
J'avoue. Non, mais parce que qu'est-ce
rien
qui
pour
je
ma défense.
Là, je suis en train de parler aux gens qui peut-être fument et ne savent pas comment réduire. Voilà. Parce que un des trucs que j'ai fait, c'est que j'ai compris, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps, à force d'introspection et d'en parler avec plein de gens, que j'avais pas forcément envie d'arrêter de fumer, j'avais envie de réduire. Parce que donc, j'ai compris, petite thérapie gratos, voilà, ça vous fait plaisir, que j'ai un problème de contrôle et que en fait, si j'arrête, j'ai l'impression de plus être, enfin de pas être en contrôle et qu'on me dit t'es incapable de te contrôler, il faut que t'arrêtes et si tu retouches une clope, tu vas te remettre à être fumeuse et t'es qu'une vicose, donc ça me saoulait, donc j'avais pas envie d'arrêter. Mais quand je me suis dit je pourrais réduire et être cette meuf qui fume de temps en temps en soirée et genre ça lui manque pas, je suis là putain ces gens ont tellement de volonté, genre ils fument que quand ils en ont vraiment envie et ils ont pas besoin de fumer tout le temps, waouh. Et bien que peut-être je pourrais devenir cette meuf-là, donc je ne suis pas partie dans l'objectif d'arrêter la cigarette, mais de réduire drastiquement et de faire des économies, car ça coûte 7,70€ le paquet. À raison d'un paquet par un jour et demi max, ça chiffre, voilà.
Oui.
Et du coup, j'ai fait ma petite vie, je me suis renseignée, j'étais en boutique pour tester des cigarettes électroniques, machin, j'ai acheté sur internet car c'était moins cher sur internet, mais je retournerai en boutique probablement acheter des liquides car je soutiens les petits artisans de mon quartier qui vendent des liquides pour vapoter.
Produits,
avec des têtes de mort
dessus. Ah, c'est quoi?
Tiens.
Et du coup, c'est ma première journée à la cigarette électronique et mon objectif c'était, t'as le droit de fumer une clope le matin et une le soir. Et le reste du temps, tu vapotes. Et je l'ai fait. Donc,
bravo,
je suis contente.
Bravo,
et ça
Mimi.
M'a pas manqué. Voilà.
Et bravo, Mimi.
Oh, bravo, moi. Oui.
Ouh, bon, bravo. Mimi.
J'avais essayé une fois la clope électronique, mais j'en avais une vraiment bas de gamme que quelqu'un m'avait filé parce que ça lui avait pas convenu, car c'était un truc extrêmement bas de gamme. Ouais. Pour un gros fumeur, ça ne marche pas. Et du coup, je m'étais dit, oh, c'est nul, c'est pas pour moi, ça m'arrange bien, comme ça, j'ai pas de moyen d'arrêter de fumer, car j'ai pas vraiment envie. Et astuce, mentez-vous à vous-même, vous irez loin dans la vie. Et du coup, bah là, j'ai fait les choses bien, et j'ai normalement, j'espère, acheter un truc qui me convient, avec un liquide à la menthe, parce que j'aime bien la menthe, blablabla. Enfin, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça se passe le mieux possible. Et donc, si vous envisagez d'arrêter un truc qui ne vous plaît pas dans votre vie, peut-être faites ça. Mettez toutes les chances de votre côté. Priez pour ne pas vous casser la cheville. Je vous conseillerais de ne pas aller danser en boîte sur une péniche à 2h du matin quand il a plu dehors, car ensuite ça glisse. On tombe, on se casse la cheville. Voilà, ne faites pas ça. Ça devrait bien se passer. Vous faites toutes les choses bien et pas aller danser à 2h du mat quand il pleut.
Despacito.
Attends, j'ai quand même envie de te demander.
Pourquoi coup, Despacito,
c'est pas Despacito?
Non, c'est Octave 5.
Et du coup, oui, y a... c'est les pompiers qui sont venus te chercher?
Oui. Voilà, alors, j'étais l'attraction de la soirée.
Ah bah, tu m'étonnes.
Et ensuite, je suis arrivée aux urgences. Du coup, j'étais toute seule parce que, à la base, donc, ok, story time. Comment je me suis pété la cheville? À la base, je voulais pas sortir. J'avais la flemme. C'était quand j'habitais à Lyon et j'avais la flemme. Je suis un peu une mamie. Et c'était la veille du 1er mai. Donc, le lendemain, c'était férié. Et j'ai une pote qui est venue et qui m'a dit, ah, bah, avec mes potes, on va au Sirius. Alors, les Lyonnais et Lyonnaises sauront que le Sirius, c'est une péniche. Club qui est pas ce qu'il y a de plus cool, mais bon, ok.
Mais
elle m'a dit, ah bah avec mes potes, on va au Sirius, tu veux pas venir? Et je me suis dit, allez Mimi, pour une fois, demain c'est férié, t'as pas d'excuses, bouge ton cul de chez toi, arrête d'être une mamie et va avec cette pote que tu adores. Rencontrer
le son reste
potes
chez toi.
Le son reste chez Watt, vraiment. PDC, j'aurais dû regarder Game of Thrones, j'aurais été mieux. Et
en boucle, en boucle, en boucle.
Arrête de faire que PDC devienne un truc. Je te vois essayer. FBI, il faut se battre.
Oui. Pays, pas intéressant.
Et donc, j'ai été sur la péniche. J'ai probablement consommé un petit peu trop d'alcool. Ne faites pas ça chez vous. Et ni sur une péniche d'ailleurs. Et en fait, ma pote a fini par rentrer dormir chez moi car j'habitais à 3 minutes, ce qui était une des raisons pour lesquelles j'y étais allée.
Rentrer à pied.
C'est que je m'étais dit, t'as même pas d'excuse. C'est à 3 minutes de chez Watt. T'habites à côté des quais, c'est la péniche. Enfin, vas-y. Moi, j'étais passablement hydratée, en train de danser, ce qui m'arrive très rarement, donc j'étais contente. Et elle m'a dit, ouais, je vais rentrer. Je lui ai dit, bah vas-y, je reste un peu et puis je te rejoins. Je me suis cassé la gueule sur le sol mouillé, sur du Uptown Funk d'une hauteur à peu près de la taille d'un trottoir. Comme j'ai une oreille interne con du cul, je suis bien tombée. Et du coup, je me suis double fracturé la malléole à l'intérieur et à l'extérieur. Donc j'ai essayé de me relever, mon corps a fait « frère, non !» Donc je pleurais, j'avais très mal, j'étais encore une fois un peu sobre, les pompiers sont arrivés, grosse attraction. Ils m'ont emmené à l'hôpital d'à côté, à l'hôpital ils ont voulu, enfin ils m'ont fait attendre, j'étais là, j'ai mal et tout, mais enfin j'étais bourrée.
Ils
m'ont emmené faire une radio, et en fait quand ils font une radio pour une fracture, ils doivent te mettre ton os dans un certain angle, qui est généralement le pire angle en termes de douleur, donc j'ai insulté le gars, j'aimerais lui passer un message, je suis désolée, vieille urgentiste quinquagénaire un peu rugue mais pas vraiment méchant, parce que je pense que je t'ai vraiment traité de connard alors que tu faisais ton travail. Et ensuite j'ai été opérée, voilà, et on m'a mis des vis dans le pied, yes. Et que j'ai toujours d'ailleurs, je les embrasse, et j'ai eu 40 jours de plâtre, plus 40 jours de rééducation.
Je me sens proche de toi. Yes.
Toi aussi t'as des vis?
Non, j'ai pas de vis, alors je suis pas une bolosse à ce point-là, mais...
Je ne me confierai plus jamais.
Oh là.
Mais non, mais
elle te dit je me sens proche et après elle te plante un couteau, quoi.
Ça c'est Kalindi, ça. Ça c'est les femmes, on ne peut pas leur faire confiance.
Je me suis fracturé la malléole, alors je me suis écrasé la malléole et fracturé l'astragale en ratant une marche aux Beaux-Arts. Bon,
c'est poétique.
J'étais en train de, en fait juste je descendais les escaliers, il y a une panne d'électricité, c'était noir, j'ai raté une marche. Une du plâtre, ce que tu veux. Ah ouais. Un mois et demi après, c'était guéri. Je pars en Bretagne, je sors du train, j'étais en ballerine, je marche 5 minutes, ma copine me fait rire, je tombe du trottoir. L'autre cheville.
Non.
Si, l'autre. Voilà.
Je suis contente que t'aies partagé ça avec moi. Merci.
Mais les vides bolosses de Kalindi, qu'est-ce que vous voulez de mieux dans la vie? Attends, pour rire
les deux plâtres
et vous dire que vous.
Non,
ça va.
Ah, okay.
Qu'elle a eu les deux plâtres en
fait. Ça serait doux.
Mais j'ai un pote, Nicolas, il s'est pété les deux chevilles en même temps lors d'un concert. Et après, il pouvait plus sortir de chez lui. Histoire véridique, Nicolas, si tu nous écoutes, tu nous écoutes pas, mais peut-être.
Alors, cela dit, moi j'étais tellement golemont en béquille que je suis pas sortie chez moi non plus. Hein.
Non, mais t'as vu comment c'est une galère? C'est horrible. T'avais pas les blocs aux mains, genre?
Non, je m'en servais pas. J'avais une chaise à roulettes et je télétravaillais, j'étais chiot.
La meuf la plus feignante.
Non, mais vraiment, j'ai essayé et j'ai failli. Genre, il y a vraiment un moment où j'ai dérapé, encore une fois, équilibre nul, masse musculaire zéro. Et j'ai failli, genre, j'ai posé une seconde mon mauvais pied, celui qui était dans le plâtre, et j'étais là. Ah. Est-ce qu'on a vraiment envie de prendre le risque de se balader en béquille et de retomber sur son putain de pied con?
Non.
Non.
Putain,
mais j'en ai pas.
C'était l'hiver?
Non, c'était en mai.
Ah, ça va.
Il n'y avait pas de verglas ni rien, j'étais chez moi, j'étais juste Gaulmont.
J'ai une question de la plus haute importance.
Oui.
Tu bipes aux aéroports?
Non. Sinon, je les aurais fait. Ah, c'est une vraie bonne question.
Très belle question. J'allais poser la même. Ouais.
Non, sinon, je les aurais fait enlever parce que tu peux te faire enlever normalement les vis une fois. Donc, j'ai deux vis et une petite plaque. Une fois que tout est cicatrisé, oui,
voilà. Stylé presque.
En titane. Mais comme elles sont petites et en titane, je sais pas, ça bipe pas. Ouais, donc, okay. Mais il m'a dit quand même, parce que l'été d'après, j'allais au Maroc chez ma famille et j'ai dit, ça va, je peux prendre l'avion. Il m'a dit, je te conseille de prendre ta radio avec toi. Comme ça, si jamais tu bipes, ouais. Tu bipes à ta cheville, tes pieds nus et tout, et il commence à t'embrouiller, t'as ta radio qui prouve que
t'as un truc dans le pied,
mais normalement, tu.
quoi
quand t'es pieds nus, il verrait si. À la cheville. Cet homme n'a jamais vu d'arme à feu de sa vie. C'est gros,
oh là 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 là.
Non, je l'ai prise la première fois, mais je n'ai pas.
Mais du coup, on t'a opéré, on t'a ouverte pour te mettre.
Oui, oui. Ah, et non, alors, mais vraiment, je peux faire un podcast entier sur mon opération, ça va être long, quoi. Enfin, c'est peut-être long.
On
comme,
fera un épisode spécial, laisse-moi kiffer sur l'opération.
Mais attends, t'as pas fait un podcast déjà sur Mademoiselle?
J'ai fait un podcast sur les fractures et la rééducation il y a longtemps, avec donc moi qui parlais de ma cheville, Clémence Bodoc, notre rédac-chef bien-aimée, qui s'est pété les deux poignets en snowboard en même temps. Elle est tombée en arrière, elle a tendu ses bras en arrière par réflexe pour se rattraper. C'est le poignet, on fait snap.
Quel bolos.
Alors attends, tu l'as pas connu à cette époque, t'aurais ri. Car vraiment, les deux bras dans le plâtre avec une rééducation à des durées différentes. Plus elle avait un logiciel de commande vocale, du coup, parce que la pauvre, elle pouvait pas taper. Sauf que son logiciel faisait n'importe quoi.
Mais attends,
donc elle essayait de nous taper des trucs, c'était un bordel. Mais ah elle n'était pas encore rédac chef à l'époque. C'était juste une période triste pour elle. Et donc, elle a guéri. Moi, je me suis cassé le pied. Et à peu près en même temps, il y a OGG, youtubeuse qui fait notamment... Enfin, comédienne et youtubeuse qui fait notamment Virago. Alors elle, pour le coup, elle a vraiment failli mourir. Ouais. Elle a fait un accident de cheval, enfin, en cheval très, très vénère. Et elle a eu... elle, pour le coup, enfin, moi, j'ai une cicatrice un peu... visible, mais ça va sur la cheville. Clem, il me semble qu'elle a pas vraiment de cicatrice. Aude, elle a une grande cicatrice sur le bras. Enfin, elle s'est vraiment pété plein de membres d'un coup. Ah. Et comme en plus elle est comédienne et que son corps c'est son outil de travail, c'était tout un boulot de réacceptation, blablabla. Écoutez le podcast, je pense qu'il est toujours
dispo. Oui, je pense qu'il est très...
Il est cool.
Il est très en ligne.
Voilà, donc on a trois niveaux, on a ma cheville, les deux bras pour Clem, c'était pas mal, et OGG, fin du game, chaud.
BG.
Voilà.
Donc voilà, si vous voulez connaître toute mon histoire d'opération, de comment Joe Dassin rentre dans le bail et tout, parce qu'il y a Joe Dassin à un moment et tout. Ouais.
Il était à l'hosto aussi.
Teasing, je vous dis pas.
Les notes du
il
podcast,
Joe Dassin, je l'imite pas mal. Hein. Un jour, je vous le ferai.
Ah bah vas-y.
Non, pas maintenant, parce que c'est pas visuel, mais dans une vidéo. Ouais.
Très bien. Alors, on passe au gros kiff de Kalindi. Ouais, merci.
À la base, je parlais juste de ma clope électronique, mon dieu.
Ouais.
Comment j'ai digressé.
Tu vois, c'est ça, laisse-moi kiffer.
C'est ça.
Eh oui, c'est la digression.
Oui.
Alors, qu'elle me dit.
Alors, mon gros kiff, c'est l'univers.
Point, point, point.
Non, ta gueule. Mais. Non, mon gros kiff va être extrêmement cucu, à mon avis. Mais le jour où ce podcast va être diffusé, ce sera 48 heures précisément après l'anniversaire de la personne avec qui je partage ma vie, oh, qui s'appelle Naël. Et ça va être très bref, hein, puisque je vais pas m'étendre 15 heures là-dessus non plus, on s'en fout.
Pourtant, mais on parle régulièrement de la personne qui partage ta vie.
Tout à fait.
Car on l'adore. Qui fait partie d'énormément de vie de bolos et d'anecdotes.
C'est vrai qu'il partage beaucoup de vie de bolos. Hein. Je le précise pas, mais je suis rarement seule quand il m'arrive des couilles. Et rien, je voulais juste dire que mon gros kiff d'aujourd'hui et mon gros kiff de la semaine dernière, de l'année dernière et des quatre dernières années, c'est cette personne qui partage ma vie, à qui je le dis trop peu et à qui je le dis pas assez devant les gens. Mais du coup, je voulais profiter de laisse-moi kiffer parce qu'il sait pas que du coup ce sera mon gros kiff et il va l'écouter pour son anniversaire, enfin quelques jours après. Et il saura. Et donc, je vais te dire, Naël, que t'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie. Et je me fous les larmes aux yeux dès que je parle, lui, c'est insupportable. T'es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée de ma vie, que c'est ce que je souhaite à tout le monde, c'est de rencontrer quelqu'un comme toi. Et voilà, j'espère qu'un jour, toi et moi, on pourra. J'espère qu'un jour, on pourra faire des grandes choses ensemble et surtout qu'un jour, tu vas putain me demander en mariage. Voilà.
Pression. JPP, pourquoi j'ai les larmes aux yeux? Je pleure jamais, merde.
Je suis désolée, mais ouais. C'est vraiment, je pense qu'il faut. C'est un truc. Tout le monde le sait, mais il faut dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, et surtout quand on les maltraite un peu au quotidien, comme c'est mon cas. Comme c'est mon cas avec Naël, voilà. C'était très bref, mais c'était important que je le dise.
Eh ben, voilà. Plot twist, je pleure.
Oh, putain. Qui le creux, loulou.
Qui est surpris.
Le jour où moi je pleure et pas toi, c'est vraiment un truc qui est pété dans l'univers.
Non, c'était très court, je vais quand même peut-être un peu développer, un tout petit peu. Mais voilà, donc pour les auditeurs et auditrices qui ne me connaissent pas, et enfin qui connaissent pas ma vie de manière globale, car voilà, c'est. Voilà. Je vis avec mon mec depuis 4 ans et. Avant d'être avec ce mec-là, j'étais avec un type qui a beaucoup abusé de ma gentillesse, de celle de ma famille et de globalement mon existence. Et Naël m'a sauvée, il le sait pas en fait, parce que j'ai rencontré mon mec quelques temps après être sortie d'une relation abusive qui a duré plus de 3 ans. Et Naël a été là au début et en fait, c'était juste au début une histoire légère. Et ce qui devait être juste...
J'aime comme elle dit, plan cul de manière stylée.
Et ce qui devait juste être une histoire légère, et une histoire qui m'a sauvée d'un truc très dur qui m'arrivait. Et donc, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est une histoire de plein de choses. C'est vraiment un type qui m'a fait grandir et qui m'a appris à ranger mes affaires, ce qui vraiment est très...
Et à faire le ménage.
Ce qui est louable, à faire le ménage, et qui surtout est une personne, et c'est pour ça que je dis que je souhaite à tout le monde de rencontrer quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un d'une gentillesse qui est extraordinaire, comme je rencontre peu de gens qui sont d'une gentillesse pareille, qui est compréhensif, qui est intelligent. Et voilà, donc je t'aime, mon cœur, je te fais des gros bisous. Voilà.
C'est si mignon. Oh my god. Oh my god.
Bah, moi, bah,
on passe vite à autre chose.
Mon gros kiff, c'est Naël. Alors.
T'aurais dû le dire au début, on aurait fait un épisode spécial Naël pour son anniversaire.
Ah oui. Allez, on enchaîne du coup.
On enchaîne. Je sais
on va
même
pas rester, on va pas rester dans
kiff,
l'émotion comme ça, même si on adore
quoi,
ça. Mon
kiff. Ah oui, non, kiff. Je voulais. Ouais, mon gros kiff, c'était une autre BD en fait.
Ah bah c'est formidable.
Ouais, j'ai lu beaucoup de BD ces derniers temps.
Bah tu fais bien.
On va t'appeler Fnac, Cédric, vraiment.
Mais c'est très bien les BD.
Ou Cultura si vous êtes en dehors de Paris.
Alors,
mais enfin, il y a des Fnac partout.
Mais oui.
Dans les grandes villes.
Il y a des Cultura.
Bah, dans la Drôme, il y a 60 000 pélos, il y a une Fnac et il n'y a pas de Cultura.
J'ai une anecdote avant que tu commences à parler de cette BD. J'ai écouté la dernière fois le... Quoi ?
Hijack, non, vas-y.
Mais non, mais parce que sinon je vais te couper la parole pour un truc... Voilà.
Non, mais avec
la dernière fois, j'ai écouté Remède à la mélancolie, dont une émission dont j'ai déjà parlé qui est sur France Inter, avec Mouloud Achour qui parle de Chien Blanc et qui dit à quel point il trouve ça cool et tout. Du coup, j'étais là genre, ouais, mais moi, je savais avant à quel point c'était cool parce que Cédric, il en a parlé dans Laisse-moi kiffer. Voilà.
Un roman de Romain Gary.
Tout à fait.
Un roman de Romain Gary. Mais excellent, excellent. Moi, j'aime bien Remède à la mélancolie. Et effectivement, c'est aussi une chouette émission.
Pour découvrir des choses aussi, si ça vous intéresse justement d'être conseillé par la FNAC, n'hésitez pas. Remède à la mélancolie, c'est très bien.
Et donc, c'était Mouloud Achour qui parlait de Chien Blanc.
Tout à fait.
Ah, bah, stylé.
Bah oui, parce que. Bah, je sais pas, parce qu'il aime ça. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai voulu développer, parce que bah, c'était limpide.
Non, non, le bouquin est vraiment génial. Réécoutez, laisse-moi kiffer numéro. Je sais plus. Oui, non,
ta BD, ton gros kiff, pardon, je suis désolée, je t'ai hijack en effet.
Et en fait, non, non, mais avec plaisir, Loulou, tu peux me hijack quand tu veux. Whatever, whatever. Voilà. C'est une très mauvaise imitation.
Whatever, whatever, yeah.
Et non, l'autre BD dont je voulais parler, c'était c'est le truc de Riyad Satouf, l'arabe du futur.
Ah, oh, c'est trop bien.
Putain, mais pourquoi c'est pas dans vos kiffs? Genre, les meufs sont là, ouais, c'est trop ouf, c'est trop
bien. Parce que j'ai pas lu le nouveau.
Non, non, j'avais pas.
Pareil. Parce que je l'ai pas lu.
Alors, le truc, c'est que le quatrième, moi, je trouve, enfin, c'est pour ça que j'en fais mon gros kiff. Maintenant, j'avais lu le premier, j'avais été assez déjà soufflé parce que je connaissais pas du tout l'histoire personnelle de Riyad Satouf. Donc, qui, à travers l'Arabe du futur, dont on est au quatrième tome, raconte sa jeunesse entre la France et la Libye, d'où est originaire son père, qui a épousé sa mère, donc qui est française, pendant qu'il l'a rencontrée pendant ses études en France. Et donc, en fait, il retourne s'installer en Libye pendant quelques mois / années. Et en fait, donc, du coup, voilà, au fil et à mesure des tomes de l'Arabe du futur, t'as beaucoup d'allers-retours entre la Libye et la France. Et ça s'appelle l'Arabe du futur parce que, à l'époque, la Libye, c'était au moment où Kadhafi avait déjà pris le pouvoir. Je sais pas si c'était déjà devenu une dictature militaire vénère, mais du coup, t'avais cette espèce de côté un peu que peuvent avoir pas mal de pays arabes d'inspiration communiste et qui, du coup, parlaient et travaillaient beaucoup sur ce que c'était que l'arabe du futur, genre l'arabe conscient évolué. Et, okay. Et en fait, voilà, d'où le titre de la BD.
Okay.
C'est vraiment tout un mouvement politico-philosophique sur voilà, la modernité, donc la modernité arabe.
Okay.
Et donc, c'était un des axes de développement de Kadhafi en Libye. Et en fait, donc, j'avais lu le premier tome en étant vraiment assez soufflé parce que globalement, je trouve que Satouf, il est très fort, très drôle et qu'il réussit à faire passer des trucs assez balèzes et.
Est-ce que tu dis essoufflé dans le sens d'époustouflé? Puisque ça fait deux fois que tu le dis.
J'ai dit quoi?
Non, il dit soufflé.
Soufflé. Juste soufflé comme un soufflé au fromage.
D'accord.
Ça, oh, ça me donne envie d'en manger.
Il y a un super restaurant à Paris. non, vraiment, qui est spécialisé en tous les soufflés. Vas-y.
Ok.
Oui. Tous les soufflés à tous les parfums.
Oui, c'est très. Ouais, et bah, il s'appelle Soufflé d'ailleurs.
Non, non, peut-être qu'il y en a un qui s'appelle Soufflé, mais l'autre il s'appelle pas Soufflé.
Ok.
Pas Soufflé.
Et donc, ouais, donc le premier était vachement bien. Le deuxième était. Moi, je trouvais un peu moins bien sur le deuxième et le troisième. Parce que, en fait, ça patinait, un tantinet. Les allers-retours entre la France et la Libye, c'était un peu répétitif. Et en fait, tu voyais pas trop où il voulait aller entre le personnage
et son
daron.
J'imagine que c'était répétitif pour lui aussi, du coup.
Oui. Mais c'est vrai que je trouvais dans l'histoire, tu voyais que son daron, il était bloqué.
T'aurais aimé que ça avance plus vite dans les années, quoi.
Bah, tu sais pas trop où est-ce qu'il voulait. Enfin, sur certains moments, tu sais pas trop où il voulait aller. En fait,
le quatrième.
Et le quatrième, c'est. Alors, en fait, les trois premiers sont sortis assez proches dans le temps. Genre, vraiment, t'en avais un tous les 6 mois. Et le quatrième, donc, ça fait 2 ans qu'il était en préparation. Et donc, il est énorme, en fait. Déjà, en soi, c'est une BD qui fait genre. Qui fait 260 pages, un truc comme ça, qui est très longue à lire et qui, du coup, est à se retourner le cœur, quoi. En fait, dedans, il y a vraiment ce moment où ta famille, où ton père, c'est vraiment l'histoire d'une séparation mentale, en fait, quoi. Vraiment le moment où le père qui est bloqué un petit peu dans son cycle de retour au pays, et si on allait tout le temps vivre en Libye, même si ça marche pas et que c'est l'arrache et que tout le monde traite Riyad Satouf quand il est petit, il est donc c'est un tout petit bonhomme aux cheveux blonds, tout le monde le traite de juif et lui jette des cailloux et essaye de le choper, et donc t'as 3 tomes de ça où c'est un peu comique, et en fait dans le 4ème il le traite de façon vraiment plus dramatique et plus réaliste, et en plus il commence à devenir ado avec de l'acné partout et tout ça, et donc à en fait quelque part à être le Riyad Satouf qu'on connaîtra tous par la suite avec le retour au collège, les beaux gosses et tout ça, vraiment le Riyad Satouf originel, celui qui écrit sur des ados qui ont une sale gueule et qui se branlent dans des chaussettes en ayant plein d'idées pourries sur la vie.
Ah, les beaux gosses.
Et en fait, c'est vraiment ce moment de la transformation où tu vois le petit bonhomme avec son passé lourd et compliqué, et son père et sa mère qui vraiment n'arrivent plus à vivre ensemble, n'arrivent plus à communiquer et limite deviennent un peu... sont clairement toxiques l'un pour l'autre et commencent à le devenir pour leurs enfants. Et en même temps, il le raconte avec une sorte de vraie tendresse de ouf pour son père qui, dans le quatrième tome, devient vraiment complètement hardcore, quoi. Et aussi une compréhension pour sa maman qui ne peut plus vivre ça parce que c'est pas sa culture, c'est pas sa vie et qu'elle sent qu'elle se fait enfermer dans un truc qui lui appartient pas du tout et que tout lui échappe et qu'elle se retrouve régulièrement comme ça amenée en Libye pour des voyages qui doivent durer 2 semaines et qui durent 3 mois. Et en fait, c'est aussi le moment où lui, en tant que jeune ado, il comprend plein de trucs en fait. Et c'est le moment où il sort de cette enfance et cet épisode, ce tome-là, il m'a arraché le cœur, il me l'a retourné, j'ai lu le machin.
Mais est-ce que c'est genre
une après-midi pendant 6 heures, j'arrivais plus à lâcher le livre, quoi.
Une espèce de prise de conscience de tes parents sont des personnes et pas que tes parents qui sont formidables et géniaux.
Et ben en fait, il l'avait déjà dans les épisodes d'avant, mais ici en fait, tu as cette prise de conscience de l'ado. En fait, c'est vraiment son regard sur le truc et c'est peut-être parce que c'est celui où il devient ado et donc il a décidé de traiter la thématique de façon vachement plus fine et compréhensive, moins sous l'angle du bébé ou de l'enfant qui regarde ses parents, qui comprend pas trop.
De mémoire, moi j'ai pas lu le dernier, mais c'est vrai que de mémoire, dans les premiers tomes, c'est beaucoup d'observations et de trucs un peu chelous que lui il observe dans le monde des adultes, quoi.
Voilà, ben là en fait, t'as vraiment le côté, il rentre dans le truc. Il y a quelques moments où son père il le prend à part pour lui parler en fait de la famille, du fait que c'est l'aîné, donc. Vraiment, quand son père est pas là, c'est lui qui doit être le mec, il doit apprendre à tout le monde ce qu'il faut faire. Il lui dit vraiment, te marie pas avec des Françaises, elles sont trop indépendantes, elles font trop chier, elles veulent être libres, marie-toi avec une bonne Syrienne. Et lui, il est déjà français en fait dans sa double culture. Et en fait, c'est aussi l'épisode où il commence à devenir bon en dessin à l'école. Donc au début, ça l'aide un peu avec les meufs, et puis après, il se coupe les cheveux, du coup, il a une vieille gueule et les meufs, elles l'aiment plus. C'est vraiment, en fait, t'as ce truc-là, le lien entre le Satouf des 3 premiers Arabes du futur, où c'est un enfant qui vit en Libye et qui comprend rien, et là, bam, il se prend l'adolescence dans la gueule, il se prend ses parents qui commencent à partir en couilles vénères, mais sauf que là, il comprend que c'est chaud. Ouais. Et en plus, il comprend aussi, sur ses retours en Libye quand il est ado, que putain, ça, c'est chaud quand même, quoi. Parce qu'en plus, ils vivent dans un village du fond du cul de la Libye. Et donc, vraiment, c'est une école où les gamins, ils font caca dans la cour de récré et des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment la Libye à l'arrache des années 80, quoi. Et en fait, il a jamais un regard, et c'est ça qui est stylé, mais après, les gens aux double culture, il a jamais un regard critique. Il a un regard où il essaye d'être compréhensif, mais tout en étant jamais tout à fait français, ni jamais tout à fait libyen. Et du coup, il est dans les deux trucs où, en France, les mecs, ils se moquent de son nom de famille. En Libye, les mecs, ils se moquent du fait qu'il a des cheveux blonds et que c'est un juif. Alors que même pas, c'est juste qu'ils ont décidé de l'appeler juif parce qu'il leur ressemble pas et qu'il a l'air, un peu trop malin. Et du coup, en fait, il trouve jamais sa place. Et bam, l'adolescence. Donc en prime, voilà, tu n'as pas ta place.
C'est déjà une période bof. Bon.
Et en plus, bam, cette double culture, elle est symbolisée par tes deux parents, en fait, qui de plus en plus se cristallisent dans leur propre culture et réussissent plus à créer de pont. Et en plus, c'est marrant parce qu'il a deux petits frères. C'est l'aîné de sa famille. Donc, tu vois dans sa façon de voir la vie que ses deux petits frères, ils sont pas encore arrivés à ce niveau-là. Et que lui, il est en train d'émerger à la conscience de plein de trucs d'un coup. Et ça fait de ce machin. Moi, j'adore les œuvres sur l'adolescence et la fin de l'enfance et tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment une des périodes de la vie où tout d'un coup, tu comprends le monde.
Ouais.
Genre, vraiment, c'est comme, je pense, découvrir la pierre de Rosette. Et ben, l'adolescence, pour moi, il y a vraiment ce côté-là. Non, mais tout d'un coup, plein de trucs que
j'ai pas la rêve de la pierre de Rosette.
C'est le Champollion, il a réussi à traduire l'égyptien parce qu'il avait une pierre, la pierre de Rosette. Avec
alors, la pierre de Rosette, je l'avais.
Et en fait, la pierre de Rosette, elle a les hiéroglyphes et du grec ancien ou du latin. Donc, faites du latin. Pour,
du grec ancien ou du hiéroglyphe,
voilà,
mais c'est rare.
Pour devenir célèbre, si un jour vous voyez une pierre avec des hiéroglyphes.
Mais j'ai compris. Les hiéroglyphes,
peut-être,
oui.
On
ça
donnera
fait longtemps jouer dans La Momie, c'est tout. Avec Brendan Fraser. Ouais.
Mais du coup, ouais, moi, c'est cette phase-là de l'adolescence, en fait, t'es tous les trucs que tu sais quelque
t'as
part dans
déclic,
ta tête
quoi.
Quand t'es enfant, et ben tout d'un coup, tu fais ah, en fait, c'est ça, ah, en fait, c'est ça, ah, en fait, c'est ça. Et ça arrive rarement dans la vie après de comprendre autant de trucs d'un coup. Non ? Si ? Non, moi, je trouve pas.
Non,
c'est vrai, je fais ça. Ouais, ouais. Enfin, je sais pas, j'étais en train de me dire peut-être quand t'as un enfant, mais vu que t'es le seul ici à en avoir un, que t'as pas l'air de dire que oui, bah
non. Non, clairement, non, tu comprends. Tu testes tes limites quand t'as un enfant, mais tu comprends pas spécialement plus de trucs sur la vie.
Non, pas ce qui se passe, mais ça pique très bien.
Mais ouais. Voilà, cette espèce de moment où tu grimpes l'échelle intellectuelle très très vite, sans doute beaucoup trop vite pour ton propre bien. Mais moi, ça me passionne. Et donc, on est en plein sur un tome de l'Arabe du futur qui traite à la fois de la double culture, un peu de politique, de philosophie, d'histoire, d'adolescence, de parents, de relations familiales. Tout est... franchement, c'est écrit avec vachement de... C'est vraiment super beau et c'est la classe.
Moi, ça me fascine toujours les gens qui racontent leur histoire en livre ou en BD et tout, parce que je me dis... Enfin, tu vois, genre, lui, il parle notamment beaucoup de ses parents. Je me dis, t'imagines ces darons qui lisent ça et qui sont là, genre, le regard de mon fils sur ma vie et sur mon caractère, etc. Je me dis, mais tu dois... Tu cherches les problèmes.
Je pense que les premiers Noël, ils sont compliqués. Hein.
Ouais. C'est clair. Ça doit être chaud, quoi.
Mais en même temps, c'est marrant que cette œuvre arrive finalement assez tardivement dans sa carrière. Tu vois. Le mec commence par plein de trucs sur
qui
les collégiens.
Du pot,
il écrit Pascal Brutal dans un futur...
Mais finalement, c'est pas très étonnant de te dire qu'il te faut de la maturité pour écrire les trucs les plus intimes, tu vois.
Ouais, maturité pour écrire une histoire d'enfant qui regarde ses parents. Effectivement, Picasso disait « Il m'a fallu 40 ans pour apprendre à dessiner comme un enfant ». C'était un con, mais c'est une belle phrase.
C'est vrai.
J'aime cette conclusion.
Si vous ne savez pas pourquoi Picasso est un con, regardez Nanette, le spectacle d'Anna Gatsby sur Netflix.
On l'a déjà dit, mais
vous allez apprendre plein de choses.
Car il est très bien.
Et allez suivre Riyad Satouf sur Instagram parce que il fait souvent il dessine souvent et il écrit des trucs en rapport avec ce qui se passe dans la société, notamment la politique. Et il est quand même assez salé au quotidien. Et ses prises de parole sont toujours assez justes, bien que orientées évidemment. Mais c'est très drôle.
Eh bien, merci, c'est trop bien. Ça m'a vraiment donné envie de relire les trois que j'ai déjà lus, plus le quatrième.
Ouais. Car ça commence à dater un petit peu.
Oui, c'est ça.
Rafraîchir la mémoire.
Mais c'est trop bien. Et moi, ça me fait penser à Guy Delisle. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer.
Non,
je crois pas.
Mais alors, c'est un peu un autre registre, mais Guy Delisle, c'est un illustrateur et auteur québécois. Ou canadien, je sais pas.
Québécois qui vit à Paris, ouais.
Et en fait, il a
écrit... Paris qui vit en France, pardon.
Et donc, en fait, il a écrit plusieurs BD qui traitent un peu de géopolitique. Et en fait, via sa vie, il raconte des voyages qu'il a fait. Donc, en fait, lui, il est illustrateur et il a fait une BD notamment sur Pyongyang, qui est la capitale de la Corée du Nord.
Où il travaillait, il était à l'animation là-bas pour le film Corto Maltese.
Ah, bah écoute, voilà. J'avais pas autant de détails. Parce que j'avais probablement oublié.
Qui était donc animé entre les images clés qui sont très bien dessinées.
Ils ont sous-traité Corto Maltese à Pyongyang.
En fait, oui, mais il y a plein de films qui sont faits à Pyongyang. Et en fait, les images clés, c'est-à-dire les images clés d'animation, elles sont dessinées en France. Et tout ce qui est entre les deux, c'est fait par des Coréens.
Interesting.
Ça vient de me faire penser à mon gros kiff de la prochaine fois.
La Kim Jong-un.
Et donc...
Et donc donc il raconte Pyongyang, donc son départ en Corée du Nord pour gérer en fait toute une équipe de Coréens qui vont faire ce film. Et donc il arrive là-bas et il découvre ce que c'est de vivre en Corée du Nord quand tu n'es pas de là-bas et que du coup t'as tout le temps un guide avec toi, etc. Et en fait moi j'ai lu ça, je pense que j'étais à la fac. Et c'était mon premier stage à Paris et j'ai découvert Guy Delisle et j'étais là what the fuck, et en fait comprendre ce qui se passe en Corée du Nord, enfin vraiment il y a peu de gens qui parlent de ce qui se passe là-bas et ça m'a un peu fait un déclic de putain trop intéressant en fait, mais c'est fou la géopolitique et tout, c'est intéressant et on apprend des choses, tu vois, genre vraiment
en plus il y va avec une candeur canadienne de « Ah, c'est bizarre !»
Ouais, c'est vraiment...
Il est très drôle, hein, c'est...
Ah, c'est... D'accord, étrange.
Oh, le portrait du grand dirigeant partout, et celui de son fils.
Il y a quand même un moment donné où il donne 1984 à son guide, qui lui rend le lendemain en mode « Mec, ne me donne pas ça !»
Il a de la chance de pas être mort, vraiment, voilà. Et que son guide soit pas mort, vraiment.
Et donc du coup, enfin bref, il raconte plein de trucs hyper intéressants et il a fait plein de BD comme ça. Alors je sais pas s'il continue à en faire ou pas. Je ne suis pas au fait de la carrière de Guy Delisle actuellement.
Sa dernière, c'était délivrée sur, c'est le témoignage d'un mec qui était pris en otage en Afghanistan, il me semble, mec de Médecins du Monde. Et en fait, du coup, il dessine en fait le témoignage de ce mec-là qui a été otage pendant presque un an.
Voilà, la bonne ambiance. Mais en effet, c'est vraiment des BD que je trouve vraiment hyper intéressantes. Il y a notamment tout un moment... Donc, je crois que sa femme, à lui, elle bosse justement pour Médecins du Monde.
Ouais, c'est un peu plus tard, en fait. C'est sur Jérusalem et un autre... en Birmanie.
Ouais, c'est les chroniques birmanes. Et en fait, donc c'est hyper intéressant parce que il y va lui pour accompagner sa meuf et donc il fait le rôle de père au foyer. Il a un gosse ouais. et il va se promener en poussette machin. Et du coup, il observe plein de trucs. Ouais. Et donc c'est passionnant sur essayer de comprendre un peu comment les gens vivent et en même temps dans des régimes en termes de politique qui sont vraiment pas hyper sympas. Et donc voilà, c'est vraiment
un peu démocratique, on peut dire.
Un peu démocratique.
Mais t'en as un qui est assez assez ouf parce qu'en plus c'est Jérusalem
ouais.
où il passe. Qui, je pense qu'il y a un des plus gros et où vraiment c'est un bordel politique mais, et religieux mais, Jérusalem.
Alors
et
c'est
il
bien.
Arrive pas trop mal à début. Oui, à des,
parce que moi j'ai lu son bouquin, j'étais là, enfin sa BD, j'étais là. Je crois que j'ai compris.
Ouais, ouais.
Et puis après, deux mois après, j'étais là, j'ai oublié. J'ai plus compris maintenant. Mais c'était vraiment limpide quand je l'ai lu. Donc n'hésitez pas, si vous voulez essayer de comprendre, lisez Jérusalem de Guy Delisle.
Ouais, c'est assez ouf.
Ouais.
Et il a, alors au passage, quand vous, si vous avez ou quand vous aurez des enfants, il a trois petits livres qui s'appellent Le Guide du Mauvais Père.
Oui,
qui sont très drôles. Très, très drôles.
Génial comme titre.
Et ouais. que j'ai acheté dès que j'ai eu mon bébé pour répliquer tous les bons conseils qui sont dedans.
Mais oui, c'est vrai, c'est vraiment très drôle. Mais en tout cas, oui, ça m'a donné envie de lire et L'Arabe du Futur et le dernier de Guy Delisle.
De ouf.
C'est trop cool. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fini ce Laisse-moi kiffer. Ouais.
Oui.
Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à mettre une note ainsi qu'un avis sur iTunes car c'est formidable. Et je vais vous
six
dire.
6 sur 5.
Ouais, exactement. Et je vais vous dire qu'on a une chaîne YouTube. Arrête de faire ça, il y a un micro.
Il me tape avec son micro, mais de manière un peu... je sais pas, bizarre.
C'est toi, là.
Ouais. Un peu bifle. Un peu bifle.
On peut dire
fatigué,
qu'il m'a... Il m'a bonné.
Oh, maquetane. Je sais pas parler espagnol, j'ai fait allemand.
What? C'est très bizarre.
Tu viens de dire oh,
conclusion. Mais c'est bien, je partais sur une conclusion et vous, tu fais n'importe quoi, Cédric. Bon, écoute. Donc, on a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez regarder ce podcast, puisqu'il n'y a pas de vidéo. Mais on fait une diffusion en live le mercredi midi, du coup, le jour de la sortie. Donc, si ça vous intéresse ouais. de discuter avec les gens, ainsi que nous, quand on n'est pas en train de déjeuner le midi, eh ben, on est là et c'est cool de discuter et de voir un peu, de vous voir rire quand on raconte des blagues et aussi de nous corriger en direct quand on vit de la merde. C'est vraiment bien.
On vous répondra sur le chat en mangeant des banh mi. Ce sera bien.
Oui. Continuez à nous envoyer des messages sur Instagram et à nous suivre. Ça nous fait très plaisir.
Oui.
At laisse-moi kiffer, comme on dit.
Il n'y a pas de piège.
Oui. Et puis, qu'est-ce que je veux vous dire? Bien sûr, d'ici la prochaine fois,
tout sera kiff.
Allez, Mimi, putain.
Mais laisse tomber. Jacotte Rabat-Joie, on l'appelle dans le métier.
C'est clair.
N'hésitez pas à arrêter de fumer si vous voulez arrêter de fumer. Bisous.
Ah, Rabat-Joie.
C'est la fin.
Allô, bonjour, oui, ça va?
Ouais.
Ça marche le volume?
Ah, ça tourne, allez.
Ça tourne,
ah, okay. Ça tourne. Comme une table de
Ouija. Ça tourne au Jupiter.
Oh, ça tourne au manège.
Non, pas bien.
Pas mal.
Ça
pas mal.
Tourne, boule.
Mais pas bien. Mais pas bien.
Jalouse de mon mauvais. Talent, quoi.
Mauvais.
Tellement de jalousie.
Et pourtant, ça tourne.
Jalousie de jalousie.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.